Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Incapable de mettre un pied devant l'autre.
C'est ouvert!
Debout, Michael, le match n'attend pas. Mettez vos Hanes, lassez vos Nike, prenez votre Gatorade, on passera prendre un Big Mac sur la route du stade.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment allez-vous?
Ça va très bien.
Aujourd'hui, on reçoit deux invités, Erwan Abotret et Thomas Dufant. Comment ça va les mecs?
Ça va très bien.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas, Erwan?
Alors Erwan, déjà ça se prononce Abotret, hein, depuis le temps qu'on se connaît.
J'ai dit Abotret.
Tu as dit Abotret, ça commence très mal.
Parce que tu as dit Abotret.
Ah oui, physiquement, on me l'avait jamais fait. Ça fait 30 secondes que je suis là et je vais quitter l'émission. Voilà. Je vais me présenter. Donc, je suis Erwan Abotret, fondateur, co-fondateur de First Team et expert de NBA, de basketball et d'autres sports, entre autres.
Est-ce qu'on a déjà fait la blague un beau traître?
On me l'a fait la blague, mais depuis, il n'est plus là pour parler. Par contre.
C'est un sanguin. Thomas.
Je suis co-fondateur de First Team. Je suis expert NBA et d'autres sports.
Très bien, oui, parce que.
Comme Erwan, donc.
Oui, voilà, parce que sur la First Team, il y a le basket, on vous connaît pour le basket, bien mais sûr. Il y a aussi maintenant le foot, il y a le vélo. On a d'ailleurs Paul Harrère aussi avec nous dans le studio aujourd'hui qui représente un peu le vélo chez vous. Il y a la bagarre, il y a aussi la bagarre. Vous appelez ça la bagarre, c'est ça?
La bagarre générale.
Pour la faire simple, c'est que First Team a vocation à devenir un vrai média digital sur le sport.
Mais votre spécialité base, c'est le basket.
C'est le basket.
Nous sommes basketteurs.
Avec Guigui qui nous a suivis, on a eu des belles aventures dans les travées.
Avec Guigui, c'est sa spécialité, le basket.
Non, mais bon, t'as quand même vécu des choses qu'il y a beaucoup de basketteurs qui rêveraient de voir.
Un All-Star Game à Los Angeles, par exemple.
Oui, par exemple.
Quel plaisir.
J'ai rien retenu, mais je. Non. Je connais pas les règles, mais j'ai adoré.
Vous êtes donc des spécialistes basket et ça tombe merveilleusement bien parce que aujourd'hui on va se pencher sur Space Jam. I used to think that I could not go on. Film sorti en 1996 et qui avait cette année-là créé l'événement puisqu'il présentait pour la première fois à l'affiche Michael Jordan en tant qu'acteur. Dans ce film, on compte aussi la présence de Bill Murray, Wayne Knight, qu'on connaît également pour Jurassic Park et Seinfeld, ainsi que plusieurs figures du basketball comme Charles Barkley, Larry Bird ou encore Pat Ewing. Ce film, qui est un mix entre animation et prise de vue réelle, raconte l'histoire d'une attaque extraterrestre dans le monde des Looney Tunes, qui propose alors un deal à leur assaillant, jouer leur survie sur un match de basketball. Et pour y arriver et se faire aider, il faut entrer dans leur monde le véritable Michael Jordan. Alors messieurs, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film? Et je vais commencer avec Thomas.
Mon premier souvenir doit être à l'âge de 6 ans, puisque je suis né en 1990, et c'est surtout un souvenir de l'idée qu'on a à l'écran l'homme le plus grand du monde. Parce qu'à l'époque, je pensais que Michael Jordan, basketteur, était l'homme le plus grand du monde, le plus musclé, le plus fort, le plus beau. Pourtant, j'aimais le foot à l'époque. C'est dire tant l'influence et l'impact de Michael Jordan était énorme. Donc mon premier souvenir, c'est évidemment un souvenir d'enfant, le souvenir d'un très bon film. Et un souvenir, un peu comme Roger Rabbit, de ce mélange entre l'animation et du basket que je trouvais très crédible à l'époque.
Ok, Erwan.
Moi, c'est l'excitation avant d'aller voir le film. Moi, mon père m'avait emmené le voir au cinéma. Je suis plus vieux que Thomas. Moi, j'ai 38 piges. Hein. Je suis né en 82. Et je me souviens que je commençais à suivre le basket un petit peu. Bah, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, c'était via quelques vidéos, quelques articles de basket. Et c'était déjà une méga star mondiale. Et quand ce film est sorti, mon père m'a dit, ben vas-y, je t'emmène, on va aller voir Space Jam. L'excitation que j'avais, c'était, j'avais l'impression d'aller voir un match avec Michael Jordan. Et d'ailleurs, à la fin du film, j'ai pas été déçu, hein, sur le plan de fin et le I Believe I Can Fly qui commence. J'avais passé un moment exceptionnel et je m'en souviens encore comme si c'était hier.
Ouais, on va pas trop parler d'R. Kelly dans cette émission.
Ah, on peut en parler. Hein. Voilà,
pour le non, coup. Mais I Believe I Can Fly,
j'ai noté dans mes petites fiches la bande-annonce de Space Jam est sous-cotée parce que elle est de très haut niveau.
Guillaume, ton premier souvenir?
Moi, je l'avais vu au cinéma.
Il me semble que je l'ai vu avec des amis, devait y avoir un adulte, j'imagine, parce qu'on était petits quand même. Mais j'ai pas. Ouais, peut-être. Mais,
votre éducateur de l'époque, peut-être.
Oui, peut-être. Non, mais en fait, ce qui me fait penser à cette époque, c'est surtout que, comme je disais, je suis pas fan de basket du tout, enfin, je connais pas grand chose, mais que Michael Jordan, ça avait vraiment transcendé ce truc. Parce que moi-même, j'avais des vêtements Air Jordan et que j'avais demandé carrément en cadeau. Et pareil, il y avait une sorte de... Pour moi, ce film, c'était un peu comme on parle souvent de Retour vers le futur. Il y avait une sorte de coolitude du film. Tu sais, il y a tout dedans, tu vois. Genre, il y a toutes les références qu'on aime, la musique, etc. Je trouvais ça trop cool. Et c'était ça, le premier souvenir, c'est vraiment un souvenir de... À l'école, tout le monde en parle. C'est le truc cool du moment. C'est genre... c'était la révélation, un peu, quoi. Voilà.
Je suis un peu déçu, je m'attendais à mieux.
Excusez-moi, je sais pas.
Non, moi, le souvenir, c'était. Moi, j'étais vieux, j'étais le plus vieux de vous tous, donc j'avais déjà 17 ans, je crois.
Toi, tu l'as vu en noir et blanc, toi.
Je l'ai vu en noir et blanc. Ouais. J'ai vu la version muette. Ouais, c'est ça. Avec les sous-titres. Non, en fait, ce que je me souviens, c'est que c'est sorti un peu après en France, et en fait, on avait déjà les clips de la BO qui sortait, dont tu parlais, Erwan. Et donc, le fameux clip des Monsters, là. I gotta high. Et en fait, le clip, je me rappelais qu'il tournait sur MTV, c'était à l'époque où je suivais grave le rap américain. Et sur le clip, il y a Biril de Cypress Hill, il y a Method Man, il y a LL Cool J, Busta Rhymes. Et en fait, je me rappelle de ça en me disant, putain, ce film, il va vraiment être bien. En fait, ça va être génial si eux, c'est les personnages principaux. Et en fait, j'ai découvert que c'était les méchants. Donc, j'étais un peu dégoûté. Mais genre, ce que je me souviens, c'est pour moi, c'était le premier film où il y avait une vraie alliance entre l'ambiance un peu urbaine, basket, rap, dans laquelle j'étais, et un film, quoi. C'était censé être un film pour notre génération totale, tu vois. Et après, quand je suis allé le voir au cinéma, je me rappelle d'avoir vu au ciné, de quoi je me souviens de Bill Murray, en vrai. C'est-à-dire que je crois que c'est la première fois que j'ai vraiment repéré Bill Murray dans un film au cinéma, tu vois.
Après, avant, c'est le seul vrai acteur du film en même temps, après.
Le seul beau acteur aussi.
Ouais, puis qu'on voit un peu, puis il y a ce délire où il joue au golf, tu vois. Je sais pas, il y a plein de trucs en fait où je me dis maintenant je suis un peu passionné par le golf, par Bill Murray. Ça se trouve, tout vient de là, tu vois. J'avais 16-17 ans, ça a dû imprégner à mort.
C'est une inception, donc. Hein,
ouais,
une inception.
De ouf. C'est une grosse inception.
Moi, je me souviens que j'associais déjà Michael Jordan, je l'associais à quelque chose d'événementiel. C'est un événement, Michael Jordan. Je me souviens d'une émission où il était venu sur Nulle part ailleurs, une émission sur Canal Plus à l'époque, et c'était tellement un événement que Michael Jordan soit là. Dans ma chambre, j'avais un poster. Alors, vous qui êtes des spécialistes, il fait quelle taille, Michael Jordan?
98.
1,98, ouais. J'avais un taille. Je sais pas si ça se fait aujourd'hui. J'avais un poster taille réelle de Michael Jordan qui faisait 1,98 m. J'avais ça dans ma chambre, c'était assez fou. Et voilà, donc en fait, voir un film avec Michael Jordan, parce que quand on a grandi dans les années 90, moi, j'étais plus foot, mais en vrai, j'étais fan de basket parce qu'il y avait un truc où tout le monde était fan de basket à l'époque.
Ouais, mais ça transcendait un peu.
C'était les États-Unis.
Et Michael Jordan, il apportait quelque chose aussi de, tu vois, comme je viens de le dire, c'était plus qu'un sportif pour moi. Il faisait rayonner le basket dans le monde. Et du coup, voilà, Space Jam, c'était un événement grâce à ce type, forcément.
Secret type.
Et voilà. Et le souvenir que j'ai, c'est qu'en fait, quand j'étais au collège, il y avait un type dans ma classe qui avait toujours des nouvelles sapes, etc. Et je pense que il avait des deals où il les volait, ce genre de truc. Et un jour, il me dit...
Accusation à charge, apparemment.
Non, mais dans mes souvenirs, ça avait été avéré qu'en fait, il volait des fringues. Enfin, ses parents volaient des fringues.
Tu as un prénom?
Non, je l'ai plus. Grégory. Et du coup...
Le petit?
Non.
Et du coup, voilà. Et en fait, un jour, il arrive à l'école. Il avait une veste Jordan, Air Jordan, qui coûtait hyper cher. Et il me dit, si tu veux, je te la donne. Et quand t'es en CM2 et que le mec te dit, je te donne une veste Air Jordan, c'est le feu, quoi. Et du coup, j'avais accepté et j'étais allé voir le film avec cette veste. Et ma mère m'a vu avec cette veste. Elle me dit, c'est quoi cette veste? Je dis, c'est un mec qui me l'a donné. Fait, non, tu vas lui rendre tout de suite, dès demain. Et du coup, je l'ai rendu le lendemain. Et quand t'es petit, t'es dégoûté. Voilà, la fin de l'anecdote se termine ici.
Très bonne anecdote.
Très bonne anecdote. Et du coup, voilà comment c'est terminé pour Space Jam. Qu'est-ce qui vous... Alors, on a tous vu Space Jam quand on était enfant. Qu'est-ce qui vous faisait le plus rêver lorsque vous étiez ado, le cinéma ou le sport? Parce que je sais que vous, vous êtes des fans de cinéma, mais en même temps, ça a commencé par le sport. Erwan.
Ah, c'est une bonne question.
C'est dur, hein?
Moi, je dirais le sport quand même, parce que de manière naturelle, je me suis toujours plus jeune, je m'imaginais être un grand sportif. Je me suis jamais imaginé être un grand acteur.
Mais le cinéma peut te faire rêver aussi, si ouais, non, sans pour
c'est bizarre parce que t'as les capacités quand même de d'acting.
Plus que moi. Hein. je savais pas qu'il y avait Leonardo DiCaprio avec nous. Dans le podcast.
C'est cool. Hein. Je dis ça parce que j'ai eu l'occasion de le filmer.
J'étais le meilleur des deux. Tu te souviens d'un truc dans le froid où j'avais assuré quand même. Non, mais je pensais que tu me respectais un peu plus là-dessus. C'est pas grave.
Erwan joue mieux que Thomas, apparemment.
Oui, oui.
Au niveau de l'acting.
Ce qui, honnêtement, et je l'adore, c'est pas très compliqué. Bref, ça sera peut-être l'occasion d'un autre podcast bien marrant. Non, mais non, c'est vrai que le sport naturellement m'a fait plus rêver. Quand t'es petit, tu rêves, t'as pas de limite dans tes rêves. Et je me suis plus imaginé être un grand numéro 10 de l'équipe de France qui jouait pour le FC Barcelone ou être un joueur NBA. Voilà, je m'imaginais plus ça. J'adore les films m'ont fait rêver, mais différemment. Le sport, je me suis projeté vraiment beaucoup plus dans le sport. Mais c'est vrai que le ciné amène, les deux sont quelque part assez liés. Et les grands films sportifs, Space Jam a lié les deux.
Thomas.
C'est difficile, mais je vais répondre à la même chose qu'Erwan, c'est-à-dire que le sport, il y a un truc beaucoup plus direct par rapport au ciné, parce que quand on était petit, on s'identifiait plus aux films américains, à des trucs comme ça. J'ai eu du mal à m'identifier aux visiteurs, par exemple, a priori. Donc le sport...
Moi, beaucoup plus, par contre.
C'est les dents, ça.
Alors que le sport, c'est vrai que ça vient aussi des parents, c'est que même si... moi, j'ai la chance d'avoir un père qui adore le ciné, mais on était très sport à la maison. J'ai fait du sport très tôt aussi. Et pour le coup, je prenais pas de cours d'acting. Donc faire du sport, le fait de jouer au foot, avec les copains dans la cour de récré, forcément le foot était beaucoup plus accessible que le ciné.
Alors Guillaume, parce que je sais que enfant t'as fait du karaté.
Non mais j'ai fait du foot.
Ah oui, c'est vrai que t'as fait du foot.
En fait moi j'avais un grand frère, un très grand frère, parce qu'il a 16 ans de plus que moi, et du coup il m'a forgé en musique, il m'a forgé en tout, et il adorait le foot. L'Olympique de Marseille, il regarde tous les matchs, tu sais, c'est genre le matin il regardait le téléfoot tous les dimanches matin, après mon père regardait la F1, vraiment c'était le sport à fond chez moi, tu vois. Et en fait après j'ai fait du karaté parce qu'il a fait du karaté, et à un moment j'ai découvert la batterie, rien à voir, et d'un seul coup je me suis mis à faire que de la musique, et je pense que la musique ça me faisait déjà rêver parce qu'à 8 ans j'écoutais ses disques, etc, tu vois. Et il a pas du tout réussi à me filer le syndrome du sport, parce que le sport, j'y connais rien du tout. J'y arrive pas. Je connais pas les règles, en fait, tout simplement. D'aucun sport.
Je connais pas.
Le rugby, je connais pas. Je sais pas comment ça se joue.
Les rares fois où je parle de foot avec Guillaume, on ressort toujours les mêmes joueurs. C'est Papin.
Oui.
Rudy Voller. C'est des mecs de l'Olympique de Marseille.
C'est
l'époque de mon frère, voilà, à fond.
Et toi, Aurélien?
La question cinéma-sport, oui, c'est cinéma. Clairement, ouais. Après, moi, les années 90, je suivais beaucoup le sport, notamment le basket, mais je pense que c'était générationnel.
T'en as fait ?
Ouais, j'ai fait du sport. En fait, j'étais toujours passionné par le sport, notamment les sports américains. Genre, moi, je suis un gros passionné de baseball, de football américain. Par exemple, je connais toutes les règles par cœur. Vraiment.
Ah, voilà.
Le baseball, je peux te sortir même les règles qu'on n'a pas sorties depuis 1898.
Tu es le seul en France,
Non, mais non, il y a plein de gens
qui jouent au baseball en France. C'est dur à comprendre ou pas?
C'est très stratégique en vrai.
Le baseball c'est quand même, c'est pas c'est, simple les règles.
C'est très stratégique, mais après, une fois que tu as compris, c'est un peu comme tous les règles de stratégie, tu vois. Mais moi, j'ai jamais eu des grandes aptitudes sportives, et en plus je suis zéro en compétition. Genre, si tu me mets en dire ah, alors qui c'est qui va gagner, je m'en tape. Genre, ça m'intéresse pas personnellement. Donc j'ai fait du judo, j'ai fait du baseball, j'ai fait du basket très longtemps, mais j'ai toujours été très nul et j'avais pas du tout l'esprit de compétition ni l'esprit d'équipe. Mais par contre j'adore les films de sport, par exemple. Voilà, donc ça mélange bien les deux. Donc,
c'est pas incompatible.
Donc concrètement, je crois que les deux m'intéressent.
Je suis très content d'apprendre que t'as pas l'esprit d'équipe, en tout cas c'est sympa.
J'ai l'esprit de l'équipe globalement, mais tu vois, j'ai pas l'esprit de groupe, de créer un truc, de collectif, dans la compétition, tu vois. Ça, je m'en fous, quoi.
Alors, Guillaume.
Et toi?
J'avoue. Non, mais moi.
Attends, c'est une bonne question, toi, pour le coup.
C'est le foot, là.
Pour moi, vraiment, c'était les deux. C'est-à-dire que le cinéma et le sport me faisaient autant rêver, et puis comme le disait Erwan tout à l'heure, moi j'étais fan de foot, donc. Je m'imaginais comme ça. Je me souviens, un jour, j'avais vu un reportage sur TF1, je devais avoir 15-16 ans, et ça racontait l'histoire d'un type qui avait été repéré par un club portugais qui s'appelle Farense. Et il jouait sur la plage en vacances au Portugal, et les mecs l'avaient repéré sur la plage, et en gros, il avait signé à Farense. Il avait jamais joué au foot de sa vie, et en gros, il expliquait dans un interview, oui, c'est à force de travail, on peut y arriver, etc. Et moi, ce jour-là, je me souviens, je m'étais dit, mais attends, il suffit juste de travailler pour être bon au foot, alors. Il suffit juste de s'entraîner, alors que non, pas du tout. Enfin, il y en a qui arrivent quand même, parfois dans le football, à force d'abnégation, parfois ils ont des meilleures carrières que des mecs qui avaient plus de talent. Mais très vite, j'ai abandonné ce rêve, parce que voilà, en sport, c'était pas forcément la joie. Mais ouais, je pense que c'était un mix des deux. J'ai fait un peu de basket, figure-toi, Erwan et Thomas.
Mais t'es grand après,
J'ai fait du basket pendant 2 ans, mais Je sais pas, il y avait un truc que je mélangeais ça avec le foot. Je me souviens, j'ai mis un panier durant mes 2 ans de basket.
Hein? Et c'était pas beaucoup, hein?
Non, c'était pas beaucoup.
J'ai mis plus.
Ah, mais attention, j'ai mis un panier, mais un panier de chatte. Parce que j'étais au milieu du terrain. Et je l'ai balancé comme une brique, comme ça, du milieu de terrain. Et c'est rentré dans le panier, tu vois.
T'étais le héros du match.
Non, mais j'étais le héros et je me souviens, il y avait un public ce jour-là. Mais j'ai fêté ça comme un but de foot. C'est ça que j'ai fait le tour du terrain, on fait pas ça au basket. Hein.
Non, on met un panier. Au buzzer alors.
Non, c'est pas du tout le buzzer, c'est le début du match.
Mais dans Space Jam, il y a un panier comme ça d'ailleurs, du milieu du terrain, ouais.
C'est ce que j'ai fait et du coup, j'étais là devant les supporters, genre ouais, comme ça. Machin. Alors quoi, c'était juste un panier, quoi, tu vois. Genre 2 points, ok, on revient, c'est parti, quoi. Et j'étais à fond. Bref. Alors Guillaume, si Space Jam existe, c'est grâce à une pub. Et les pubs, même si c'est souvent l'affiche pour des acteurs ou des actrices qui débutent, ça a souvent permis de lancer des carrières.
Et comme je connais beaucoup de gens autour de cette table, je vais vous proposer une rubrique jeu. On va faire un jeu.
Ils adorent les jeux, la festive.
Voilà. En gros, nombreuses sont les stars à avoir commencé les pubs télé, mais plutôt que de vous faire une liste exhaustive, je vais vous faire deviner les marques avec leur description. Et on va savoir de quelle marque il s'agit.
C'est un quiz ou pas?
C'est un quiz. Ah. Je compte les points.
Ah, ça commence direct comme ça?
Ça commence comme un quiz.
Bon, Nemo va perdre, hein,
à la question pour un champion.
S'il y a une équipe, je veux pas être avec Aurélien.
Parce que tu m'étonnes.
L'esprit d'équipe.
Un quiz à la question pour un champion, je vais défiler une description et vous devinez la marque dont il s'agit. C'est parti pour ça. On commence avec une marque installée dans 88 pays à travers le monde, après avoir été créée le 4 décembre 1954 à Miami en Floride par James McLamore.
Coca.
C'est non.
Pepsi.
On ne me découvre en France qu'en 1980. En 1989, je m'octroie la présence du tout jeune Ben Affleck pour une pub télévisée dont le slogan sera « Sometimes you gotta break the rules ». Je suis une chaîne de restaurants disparue du sol français en 97.
Burger King ?
Oui, Burger King. Il arrive trop tard.
Pour en revenir qu'en 2002 et créer l'événement, je suis spécialisé dans la restauration rapide et mon article
est
le best-seller et le Whopper. Je suis Burger King. Burger King qui a aussi vu débuter Meg Ryan et Sarah Michelle Gellar.
Ah bon ? Tu m'en diras tant.
Cette anecdote tabzienne. Donc un point pour JB. Bravo.
Donc on a le droit à toutes les réponses qu'on veut en fait.
Oui, parce qu'apparemment là-bas c'est la volée.
Je dis Coca,
Ah ouais, mais bon.
Mais on pourrait faire la règle de une réponse
oui,
à chaque.
Oui, je pense que c'est
bien. Ce que je nomme, la réponse à élimination. C'est-à-dire que celui qui balance la mauvaise réponse est éliminé pour la suite.
Pas mal, c'est ça qui me plaît.
Mais le point est quand même pour moi.
Le point est pour toi.
Comme de par hasard.
On enchaîne avec cette invention créée en 1931 par un médecin américain du nom de Docteur.
Ouais, ça c'est Coca.
C'est non.
Ah bon?
Ah eh oui.
Ah c'était un piège.
C'était non, bah c'est non.
Ah, je suis
créé par le docteur Earl Haas. Devenu marque. Ouais, il s'appelle Haas. H-A-A-S, hein, pas
Camachon. Ouais, c'est ça.
Devenu marque en 1933 sous l'impulsion d'une femme d'affaires de Denver nommée Gertrude Tenderich. Vous l'avez? Non. J'apparais en France en 1951. En 1985, je m'octroie la présence de l'adolescente Courtney Cox. Encore loin de son rôle de Monica dans Friends, pour vanter mon slogan « Il n'y a pas de honte à parler des règles ». Mon nom est la contraction de tampon et pack.
Bah allez,
Tampax.
Tampax,
hey,
bien sûr. Tampax, bien sûr.
Moi, j'étais sur Dr Pepper.
Rappelons que donc Courtney Cox et aussi Naomi Watts ont commencé dans une pub pour les tampons. Donc ça fait 2 points. Non, 1 point ici, 1 point ici.
Ouais.
Et 0 pour l'instant. On part vraiment dans
l'équipe,
le passé.
C'est un esprit d'équipe, là.
Ouais, c'est vrai.
Ah, vous êtes ensemble?
Non.
Très bien.
Ils sont pas encore prêts à le dire.
On part vraiment dans le passé ensuite, puisque c'est une marque créée en 1853 à San Francisco.
Ah, je me ferais pas avoir, je dirais pas Coca.
Je sais que je suis à deux doigts de lâcher un truc. Là.
Allez, vas-y, j'ai la réponse de champion.
Lévis.
La bonne réponse, c'est Lévis.
Ça compte double, ça.
Franchement, ça compte double. Non, ça compte double. Ça compte 2 points.
Ça compte chat surtout.
Je peux faire un tour du studio quand même.
À la JB, hein.
À la JB, évidemment.
Je suis vendu dans le monde entier. J'ai popularisé un textile devenu on ne peut plus commun en 1985. J'ai fait jouer dans ma pub un acteur encore inconnu du grand public en la personne de
Bruce
Wesley
Willis.
Snipes.
Presque.
Pas loin.
Non, mais Bruce Willis, ça fait une pub Lévis pour débuter.
Il y a Wesley Snipes, Francis Perrin et
Guy Montagnier. Mon article le plus vendu à ce jour porte la référence 501. Évidemment, je suis la contraction de Lévy et de Strauss. Je suis Lévis. Très bien joué. C'est un point qui compte double. Je l'annonce.
Ah oui.
Donc il y a 2.
C'est ce qu'on appelle une réponse de champion.
C'est normal.
Attends, quand tu réponds à la première phrase, normalement, question pour un champion, ça compte carrément 4 points quand tu réponds à la première phrase.
J'avoue, bon. San Francisco.
J'ai mis la somme.
J'ai mis pas bien.
Ouais, parce qu'il a tenté, tu vois.
Ouais, mais écoute, c'est comme ça.
On enchaîne avec une marque créée en 1899. Une entreprise familiale menée par 3 frères, Louis, Fernand et Marcel. dont le numéro de sirène est 441-639-465. Ça vous dit rien ? Avec un chiffre d'affaires de 58 milliards en 2017.
Ouh !
Vendu dans le monde entier, on voit apparaître dans une de mes pubs destinées au public anglais le tout jeune Vincent Cassel, en 1994, en petit copain beau gosse. Pub censée promouvoir, personne se lance, hein. Pub censée promouvoir un de mes produits phares de la marque à cette époque, à savoir, ouais, ben là.
Ben on l'a pas, en même temps c'est dur, hein.
La Clio.
Oh non,
mais c'est trop facile.
Ah ouais,
mais
bon. Celui-là, il est trop facile. Ça devrait être 0,5 points.
Ouais, c'est 0,5.
Je suis pour qu'on accorde le point à personne.
On accorde le point à personne.
Ça a été dit quand même.
Ouais, tu
dis bon, par mois en plus.
Oui, voilà, 0,5.
Ouais, non, mais vas-y.
2,5110.
2,5.
Autre marque créée en 67, filière du groupe Kellogg's.
1967 ou 67 après Jésus-Christ.
C'est une marque de roue, c'est la roue direct. En fait. Voilà. Alors, filière du groupe Kellogg's, avec un chiffre d'affaires d'$1,6 milliard. Mon logo est la tête d'un personnage.
Ah ! Non.
On était sur deux points là. Hein.
Ouais.
Là, on passe à un point maintenant. Je suis vendu dans 140 pays à travers le monde et en 1989, je présente le tout jeune Brad Pitt pour vanter les mérites de mon produit avec le slogan « Once you pop ». You can't stop.
Miel Pops.
Choco
Pops.
Qui a dit Miel Pops ?
Miel Pops, moi j'ai dit. Ouais.
C'est faux. Figure-toi que tous les deux éliminés.
Figure-toi que j'en parle dans le Tabs. Il n'y a
plus que JB et Erwan.
Ah, parce que moi je suis éliminé aussi. Sympa.
Bah, tu l'as dit, je sais ce que c'est.
T'as dit Coco Pops. Il y a un des deux qui a dit Coco Pops et Miel Pops.
J'ai dit les deux.
Ce n'est pas ça. Mon emballage en tube et mes chips en tuiles font ma renommée.
Pringles,
bien joué.
Bien joué.
Il a 3,5.
Il est chaud en pub. Il se gaffe tellement dopé avec la soupe. Tu connais toutes les marques.
Ne crache pas dans la soupe, s'il te plaît.
Et j'ai une anecdote tabzienne sur les Pringles, puisque ne contenant que 42% de pommes de terre, les Pringles ne sont pas considérés au Royaume-Uni comme des chips.
Ah ouais. C'est quoi alors ?
Par la haute cour de justice, ce qui permet à ce produit d'être considéré comme un produit alimentaire indifférent des autres et d'échapper à la TVA appliquée spécifiquement aux chips.
Ah, c'est génial.
Oh la vache.
Alors, si je t'avais sorti cette info, ça aurait fait un point en plus ou pas ?
Qui connaît cette info ? Non, mais c'est pas des chips, bon, pourquoi pas ?
47%.
Tiens, j'ai une question pour vous.
42.
Ouais,
votre juste. Parfum préféré des Pringles, c'est quand même important.
Ah, là, ils ont sorti des nouveaux très sympas.
Original, moi.
Original, le rouge.
Ouais, alors
non, non,
je respecte pas ceux qui prennent crème et oignon.
Ouais, crème et oignon, c'est relou.
Il y a celui qui arrache un peu la gueule. Là,
paprika.
Ils ont
Hot and spicy.
Hot and spicy, celui-là, c'est la famille. À éviter avant une première date, mais.
Non, mais le oignon crème à éviter avec une première date.
De toute façon, ouais, tout Pringles, c'est à éviter avant une première date.
C'est pour ça que j'ai pas de meuf de Pringles.
Est-ce que les Pringles, vous les mangez par 12?
Oui, bien sûr. Un petit pécule sur la main et ensuite.
Non, mais d'un coup, tu mets les 12 d'un coup.
Ça peut arriver.
À éviter aussi sur une première date.
Et bah, très bien, ça fait 3,5-1-1 et 0 pour Thomas. Entreprise créée en 79 par David Crane et trois autres programmateurs. Celui-là, il est technique.
Quoi? 79 après Jésus-Christ?
En 1979, par David Crane et trois autres programmeurs de chez Atari.
J'allais dire Atari.
Pionnière dans mon domaine de l'époque, je crée en 1982 le premier jeu vidéo dit de plateforme.
Nintendo ?
Non.
Oh,
il peut plus jouer.
Amstrad.
Non. Ah, oh, tu peux plus jouer non plus. Ça se joue entre JB et Thomas. Ok. J'emploie. Mon premier jeu de plateforme, à savoir Pitfall.
Ah putain, j'entends,
c'est Ubisoft ?
Non, il y a plus que toi qui joue.
Eh bien, nous allons aller au bout. Hein,
J'en ai un, Butoni.
Jean-Paul, tout jeune. Jack Black déguisé en aventurier pour jouer dans ma publicité. Entreprise devenue majeure dans le secteur, j'édite désormais des jeux tels que Guitar Hero, Call of Duty ou la série Tony Hawk Pro Skater. Ouais. Je suis le premier éditeur de jeux vidéo pour console des États-Unis. Je suis.
Bah, Ubisoft, du coup.
Activision.
Ouais.
Il était technique celui-là.
Zéro
point.
Tu sais qu'il y avait aucune chance qu'ils disent oui pour Ubisoft, Thomas, parce que moi il m'avait dit non juste avant.
Ah, t'as dit Ubisoft. Je suis pas au courant.
C'est que Thomas, l'émission a commencé. Ouais.
Je suis arrivé dans mes copains, c'est pour ça.
Il en reste plus que deux, alors on va faire le dernier normal et le dernier on le fera en quitte ou double.
Oh, ah,
c'est
ça.
C'est n'importe quoi.
Ça vénère toujours celui qui mène.
Je peux gagner.
Marc, ouais, toi tu sais, à la dernière émission t'as brillé. Marque créée en 1879 par le premier médecin à stériliser le matériel médical avant les opérations chirurgicales.
Ok.
Dans un spot de pub de 1979, je mets en scène Morgan Freeman en ouvrier électricien.
Ouais.
Oui, tu l'as ?
Non.
Mon produit était réputé par son mauvais goût en bouche.
Ok, je l'ai.
Et j'avais fait mon slogan.
C'était des chewing-gums.
Oui.
Non
oui. Non
Non. Mais tu, c'est pas une marque, toi.
Non, mais attends, attention. J'allais dire la marque.
Du maïs.
J'allais dire la marque après.
Non, mais c'est pas des chewing-gums.
Ah, t'es un filou, là.
Non, c'est pas des chewing-gums.
T'es un filou.
Célèbre marque de bain de bouche.
Ah
ah. Je tire mon nom.
Je sais plus comment ça s'appelle.
Du nom de mon créateur. Ah, ça va aller très vite.
Rickes.
Joseph Lister.
Ah, merde.
Listerine.
Bah, Listerine, bien joué, un point.
Bah, ça, ouais, beaucoup, parce que c'est qui tout double sur la dernière.
Non, mais attendez, avec qui on joue là? on va vraiment donner du crédit à ces gens.
Il y a 4,5, 1, 1, 0.
Il n'y a pas de match, là, je suis désolé.
Ouais, bah,
il y a PSG et les autres.
Dans la dernière émission, Indiana Jones avec David Honora et Gilles Stella, il y a Gilles Stella qui menait brillamment, et monsieur Aurélien a tout gagné sur la dernière question. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le...
Non, attends, sur la dernière question, avec Jason Patrick.
Effectivement, ouais.
Ok, dernière marque, elle est pas mal. Alors, dernière marque qui tout double, celui qui remporte ça remporte le jeu. Marque créée en 1955 à Wichita, Kansas, par les frères Carney, Dan et Frank.
Ah!
Tu l'as?
Non.
Entreprise de restauration.
McDonald's.
C'est faux, tu ne peux plus.
Ah, c'est terminé,
que tu te dis. T'as pas vu le film.
Je m'en rappelle plus.
J'ai en Californie.
On a plus que 3 joueurs. Je dispose de plus de 13 000 restaurants à travers le monde et je sers 5 millions de personnes par jour en moyenne. En 1997, je mets en scène pour ma pub du Super Bowl le jeune James Franco.
Ah, c'est quick.
Qui gagnera. C'est faux.
C'est le Cafétéria Casino.
Qui gagnera ici son premier salaire professionnel avant de rejoindre la série Freaks and Geeks. Je suis, attention, ça va aller très vite, parce que là, c'est vraiment, c'est même plus de la connaissance, c'est vraiment de la rapidité.
Hippopotamus.
Je suis le leader de la livraison de pizza.
Pizza.
Ou pizza, c'est là.
Allez, c'est là. Allez, c'est là la victoire.
Attendez. L'autre, il a lâché ou c'est là, comme s'il avait trouvé E égale MC2.
J'ai gagné, Guillaume, ou pas?
Oui. Bah, t'as gagné.
J'ai gagné, j'ai pas plus d'enthousiasme autour de cette table.
T'as gagné ce jeu, c'était honteux, mais t'as gagné.
Mais écoute, c'est un but à Rudy Voleur.
But de la main hors jeu, respect Rudy Voleur quand même.
Et donc, c'était les débuts de James Franco. On aurait pu aussi citer Tobey Maguire dans Doritos, dans une pub pour Doritos. Il a commencé comme ça. Keanu Reeves pour Coca-Cola, Paul Rudd pour Super Nintendo. On avait déjà montré cette pub et Johnny Depp pour Pepsi, jeu remporté haut la main par JB.
Merci Guillaume.
Bravo JB.
Merci Erwan, ça fait plaisir. Erwan et Thomas, Michael Jordan a été un des premiers à marketer son image de manière aussi appuyée dans le monde du basket. Qu'a-t-il apporté à ce sport au niveau de l'image? Notamment parler de Space Jam, qu'est-ce qu'il a, de par son apport au basketball, qu'est-ce qu'il a apporté à l'image de la NBA, Michael Jordan?
Michael Jordan est la NBA. On peut y aller directement comme ça. L'idée de la NBA, c'est que dans les années 70-80, ça se passe, enfin 70 surtout, ça se passe pas très bien. Il y a des problèmes de drogue, il y a des problèmes en tout genre, les salles sont vides et ainsi de suite. Et les années 80, ça va un peu mieux avec Larry Bird, qui est dans le film d'ailleurs, et Magic Johnson. Mais en fait, l'avènement de la NBA, c'est les années 90 parce que David Stern, le boss de l'époque, se rend compte qu'il a une pépite entre les mains, c'est évidemment Michael Jordan. Michael Jordan est à la fois assez intelligent pour devenir une marque, grâce à Nike, qui lui permettra de créer la marque Jordan, et grâce au JO de 92.
Oh là là.
L'enchaînement des choses fait que Michael Jordan va être la superstar à l'international pour la NBA, et la NBA deviendra ce qu'elle est aujourd'hui, donc la meilleure ligue de sport au monde, grâce à Michael Jordan, grâce à ses exploits sur le terrain, mais grâce effectivement à l'image, j'ai envie de te dire très clean, avec très peu de mauvais côtés. On a d'ailleurs vu pendant le confinement The Last Dance. Vous étiez tous devant The Last Dance.
Ouais.
Qu'on aime le basket ou pas, on a tous regardé ça comme des matchs ou comme du sport ou comme un événement. Tu parlais d'événement tout à l'heure. Michael Jordan, c'est tout ça. C'est-à-dire que finalement, c'est le sportif ultime sur le terrain, mais son image lui permet en fait de pas avoir de mauvais côtés. Et c'est en ça que c'est.
Est-ce
la
qu'il
légende
a pas, est-ce qu'il a pas de mauvais côté?
Si, il en a.
Apparemment, c'est son image, en fait. Apparemment, c'est le jeu, son mauvais côté.
C'est Dark Room.
Pas que, mais Michael Jordan arrive au meilleur des moments dans la NBA. Il y a toujours un peu de réussite quand on est une icône de son sport et même qui pour dépasser le sport. Michael Jordan arrive en 1984. David Stern, donc qui fera de la NBA ce qu'elle est aujourd'hui, arrive lui aussi en 1984. Et David Stern a une vision.
a une vision de dire cette ligue-là qui a très mauvaise réputation, une ligue où les salles sont vides, ou alors les mecs qui viennent, bah, c'est des cloches-pipes du coin. C'est une ligue.
Mais pourquoi pourquoi ça avait mauvaise réputation?
Bah, parce qu'il y avait énormément de drogue, beaucoup de joueurs cocaïnomanes dans la ligue, des bagarres. Je vous invite à aller voir les bagarres des années début 80, 70. Ça se met des grandes poires dans la bouche. Et à côté, ben, c'est la NFL et le baseball qui représentent beaucoup plus l'Amérique blanche et donc l'Amérique riche. Et la NBA souffre énormément de ça. Et David Stern, quand il arrive en 84, il se dit bon, ben, on part de quoi? Magic Johnson, Larry Bird, certes, qui sont là, mais il voit arriver Michael Jordan, qui très vite, ben, va devenir déjà avant tout, hein, parce que pour qu'on en fasse un produit marketing, c'est parce que aussi on va voir que c'est un joueur exceptionnel. Et donc, du coup, ben, tout ça va s'associer. Et évidemment, David Stern va faire en sorte que Michael Jordan devienne le visage de la NBA, mais Jordan va lui faciliter la tâche aussi, tant par ses performances et par son charisme. C'est un personnage un sportif extraordinaire.
Alors, tout à l'heure, Thomas, tu disais que ça a commencé avec Nike, Michael Jordan. Et je crois, alors dites-moi si je me trompe, mais je crois que Adidas aurait pu avoir Michael tout Jordan. Fait. Ils n'ont pas vraiment cru en lui et ils ont loupé le coche. Vous pensez qu'il regrette ou pas?
Non, je pense qu'ils sont toujours d'accord avec ça.
Non, mais c'est vrai que Michael Jordan, lui, il adorait Converse.
Ah oui, c'est vrai.
Parce que Magic portait des Converse, et Larry Bird aussi.
Toutes les stars, absolument. C'était les baskets de
absolument.
Basket, quoi.
Enfin, et en fait, ce qui est dingue avec Nike, on connaît aujourd'hui comme la plus grosse marque de sport au monde, se base aussi sur Michael Jordan pour devenir cette marque incontournable. Donc, ils ont la merveilleuse idée de le signer et de très rapidement lui faire des baskets très original, qu'il va porter sur le terrain. À l'époque, on a le droit de porter seulement des chaussures noires ou des chaussures blanches. Lorsque tu es à l'extérieur, donc des chaussures noires avec des chaussettes noires, et à domicile, des chaussettes blanches avec des chaussures blanches, Michael Jordan va porter des chaussures rouges. Et Nike va payer les amendes offertes par la NBA à Michael Jordan. Justement, d'un point de vue marketing, c'est juste du génie. Donc, effectivement, Adidas peut s'en mordre les doigts. Il paraît qu'il y a eu des réunions, ils sont allés très loin, et c'est notamment la mère de Michael Jordan qui a eu son mot à dire en disant « Non, eux, ils ont une vision pour toi, comparé à Adidas, où tu vas être l'un parmi les autres. » Nike va le mettre en avant, mais c'est toujours pareil, Erwan le disait, tout a été capitalisé autour des performances sportives et du charisme de Michael Jordan. Sans ça, tu ne peux pas imaginer que Jordan et Nike soient à ce niveau-là, ni la NBA en fait.
Après, il y a Spike Lee et tout, enfin, plein de trucs.
Dans
deuxième
temps, ça arrive plus tard, ça. C'est début des années 90, Spike Lee déjà, avec le clip avec Michael.
89, 90, ouais, 91.
Tu vois,
c'est sur le deuxième temps.
Ça fait déjà 5-6 ans qu'il a la NBA.
Les pubs sont iconiques. Après, il y a celle aussi avec Michael Jackson, et t'as... C'est Jordan, il est à ce niveau-là. Michael Jordan est au niveau de Michael Jackson.
Et d'ailleurs, tu parlais des Air Jordan qu'il portait. Il y a Bill Murray, tous les acteurs du film portent des Jordan
Air. Tout à fait. Quel Jordan Air, Wanda Gardner?
Je crois que c'est la 11,
attends, je l'ai vu.
Je parle de Bill Murray.
Jordan, dans le film, il a deux paires de Jordan. La 9 quand il s'entraîne, et la 11.
La fameuse Space Jam.
C'est ce que je viens de dire, en fait.
Oui, mais je disais Bill Murray. Bill Murray. Alors, Erwan, vas-y. Parce que j'ai regardé, et du coup, je peux te dire.
Hier j'ai regardé en plus.
Oh non!
En plus, hier j'ai fait attention dessus. J'ai fait attention et ça me revient pas.
Tu méritais vraiment pas de gagner au quiz.
C'est une paire qu'on voit très très peu portée. Surtout dans ce format en haute. Elles sont pas fort sorties en bas.
C'est quoi alors?
C'est une paire très très rare.
C'est celle des JO, non?
Non. C'est la Jordan 2.
Qui est très rare, en fait, qui est très peu portée.
Guigui,
il m'a fait
Il les a eu, Guigui.
Tu sais que, attends, mais c'est marrant ce que tu disais. Michael Jordan, c'est Michael Jackson. Et je sais pas si vous vous souvenez d'une discussion qu'on avait eue tous ensemble où on se demandait quelle personne est connue dans le monde entier par tout le monde. Par genre, tu vas voir n'importe quel Indien, il sait qui c'est, n'importe quel Africain, n'importe quel. Chinois, partout, tu vois, Chinois partout. Et moi j'avais dit Michael Jackson à l'époque. Je pense qu'à l'époque de Michael Jackson.
Oui, Michael Jackson.
Tout le monde le connaissait.
Mais c'est ce que je dirais, moi.
Mais est-ce que Michael Jordan, tout le monde le connaissait?
Mais moi, aujourd'hui, je dirais Trump, bizarrement.
Ouais, mais Trump, sans politique, parce que Trump, c'est sûr.
Moi, je dirais Snoop Dogg.
Tu crois?
Je sais pas pourquoi.
Non,
ou la quoi? Moi, j'aimerais plutôt la reine Elisabeth, mais c'est un autre style.
Ouais,
si on enlève les dirigeants, parce que
ouais, les dirigeants. Oui, on enlève les dirigeants, t'as raison.
Et en pop, divertissement et tout.
Moi, je dirais Tom Cruise.
Ah, peut-être.
Drake,
tu crois que tout le monde le connaît?
Ma mère connaît pas Drake.
Moi, je pense que la plus grande star de tous les temps, c'est Michael Jackson, de toute manière.
Céline Dion, alors.
Céline Dion, ça marche.
Céline Dion, je pense que.
Bien qu'il y ait un petit débat avec Elvis Presley, quand même. Parce que Elvis Presley dans les années 50, tout le monde connaît.
Elvis Presley, il n'y a pas un mec de moins de 15 ans qui le connaît aussi.
Non, mais je parle d'époque. En son temps, ce que disait Guillaume, en son temps, Elvis Presley.
Moi, il y a bien des gens qui ne connaissent pas Michael Jordan.
Jean Reno, si on compte le Japon et tout.
Je peux aller en Creuse et trouver des gars qui ne connaissent pas Michael Jordan, c'est sûr.
Je ne suis même pas sûr, Guillaume.
Michael Jordan ?
Si, si, je pense.
Moi, je pense.
Même pas sûr. La condition, c'est quand même qu'ils aient l'électricité chez eux.
Alors, les gars, Warner a annoncé récemment la prochaine sortie d'un Space Jam 2. Et cette fois-ci, ce sera un Space Jam nouvelle génération parce que c'est LeBron James qui remplacera Michael Jordan. Et du coup, ça me permet de vous poser une question parce que moi qui suis un peu... Alors, je suis forcément abonné à la page First Team sur Twitter, YouTube, tout ça. Et je vois qu'il y a souvent un débat qui revient. C'est le débat du GOAT. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quoi le GOAT ? Est-ce que tu peux me dire, Erwan, ce qu'est le GOAT ? Ce que veut dire GOAT ?
C'est quoi la...
Greatest of all time.
Voilà. Donc, le meilleur joueur de tous les temps.
Il y a un GOAT de tout.
Donc, on a un Space Jam premier avec Michael Jordan. Là, c'est avec LeBron James. Il y a beaucoup de gens qui opposent LeBron James à Jordan. J'ai envie de vous lancer sur le GOAT.
Oh non, mais t'es sérieux?
Mais non, mais j'ai envie de vous lancer comme ça.
Sur 3 heures, toi,
en fait. C'est un piège, ton truc, ton émission, là.
Pas 3 heures, mais en même temps, si là, vraiment, vous deviez choisir entre LeBron James et Jordan.
Nous, on est Jordan.
LeBron James. LeBron, pas LeBron.
Excuse-moi, c'est important.
Nous, on le sait, les gens qui nous regardent, nous, on est Michael Jordan, c'est une histoire un petit peu de génération, c'est une histoire de goût aussi. Et puis, la carrière de LeBron James n'est pas terminée. Il est champion titre depuis quelques mois avec les Los Angeles Lakers. Il a gagné 3 titres avec 3 franchises différentes, ce que Jordan n'a pas fait, puisqu'il a toujours gagné avec les Bulls. Donc, forcément, déjà, on va attendre, je pense que pour vraiment avoir un avis définitif, et encore, ça sera toujours un petit peu au goût et aux couleurs. Il n'empêche que c'est un débat qui existera toujours, qui peut être très intéressant quand on tombe pas sur des idiots du village qui veulent absolument avoir raison. Je pense que LeBron aura des choses à faire. Moi, il faut surtout attendre qu'il finisse sa carrière. S'il fait un doublé avec les Lakers, voire un triplé, effectivement, dans la balance, déjà, il revient à 6 titres au même niveau que Michael Jordan, et en gagnant avec 3 franchises différentes, une longévité, peut-être meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Bon, il aura des choses à mettre en valeur. Donc, moi, je suis Jordan parce que j'ai découvert le basket avec lui et j'avais l'impression qu'il était imbattable. C'est pas l'impression que j'ai avec LeBron James, qui est quelqu'un qui s'est fait battre, mais qui a aussi gagné. Donc voilà, après chacun a ses préférences. Moi, je suis Michael Jordan. Pour l'instant, en espérant que...
Thomas, rapidement.
Oui, très rapidement. Moi, je suis à fond de Jordan aussi, parce qu'il y a cette idée que Michael Jordan est le sportif ultime. LeBron James, aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il soit dans la course du plus grand sportif de tous les temps. Parce que sa carrière n'est pas terminée, parce que c'est une époque un peu différente et qu'on vit tous dans la nostalgie, évidemment.
Et Jean-Pierre Papin, il est pas du tout.
Jean-Pierre Papin n'est pas encore dans la. Parce que sa carrière n'est pas terminée.
Mais après, moi qui suis le basket de loin, je suis vraiment pas un spécialiste, loin de là, mais j'ai aussi le sentiment qu'à l'époque de Michael Jordan, tous ceux qui aimaient pas le basket pouvaient savoir qui est Michael Jordan. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tous ceux qui connaissent pas le basket sont pas forcément au courant de qui est LeBron James.
Parce qu'on est abreuvé par tellement d'autres choses. Aujourd'hui, tu as raison, mais parce que honnêtement, Michael Jordan, c'est une espèce d'étoile au-dessus de tout le monde, quoi. On peut le comparer à Mohamed Ali, voilà.
Oh, mais voilà, quand tu poses la question de qui sont les plus grands sportifs de tous les temps, j'ai l'impression que les premiers noms qui viennent en tête, ça va être quoi ? Ça va être Pelé, Mohamed Ali, Jordan. Michael Jordan, mais pas LeBron James.
Absolument, non, mais tu as raison. Mais aujourd'hui, on en parlera dans 10-15
peut-être,
ans.
Peut-être.
Mais en tout cas, Erwan a raison, il faut arrêter de comparer. On pourra comparer à la fin de sa carrière à LeBron, parce qu'aujourd'hui, Jordan, de toute manière, est imbattable dans les chiffres. C'est tout à fait hors du commun ce qu'il a réalisé. L'idée d'aller 6 fois en finale et de jamais perdre, ça n'a aucun sens dans le sport. Normalement, tu perds un peu quand même. Tu vois, ça t'arrive, tu dois avoir des défaites.
Dans le tennis, c'est comme ça.
Ouais, aussi un peu. Mais arrêtons de comparer Jordan et LeBron. Thomas a vraiment raison. Peu, voilà. Mais n'oubliez pas d'aller voir notre vidéo sur qui le meilleur entre Jordan et LeBron.
Très bien. Alors, dans Space Jam, il y a un acteur qu'on adore tous, Bill Murray. Et s'il a joué dans ce film, c'est parce qu'il regrettait de ne pas avoir pu jouer dans Qui veut la peau de Roger Rabbit 8 ans auparavant. À cette époque, il avait été sollicité pour interpréter le rôle du détective Eddie Valiant, mais au final, cela ne s'était pas fait. Pourquoi ? Pour plusieurs petites raisons, mais surtout parce que Bill Murray a un mode de fonctionnement unique à Hollywood. Depuis le début de sa carrière, il n'a pas d'agent, mais simplement un répondeur téléphonique. Si un réalisateur ou une réalisatrice souhaite travailler avec lui, il faut appeler un certain numéro, laisser un message en expliquant le film, et peut-être que par chance, Bill Murray tombera sur un message et répondra favorablement. Le problème, c'est qu'avec cette méthode, il a raté plein de films cultes. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dresser une liste de films et de rôles qu'il aurait pu interpréter, mais qu'il a raté à cause de ce fichu répondeur. Et vous allez me dire si le film aurait été mieux ou non avec lui dans le rôle. D'accord ?
Ah ouais,
okay. Très long, bravo.
Je vais vous faire une petite série de rôles qu'il aurait pu avoir. Vous allez me dire si c'est bien avec le mec actuel, ou si ça aurait été mieux avec Bill Murray.
Japlou.
Figurez-vous.
Le rôle du cheval.
Japlou, Bill Murray quand même.
Japlou.
Alors, figurez-vous que Bill Murray était envisagé pour interpréter le rôle d'Indiana Jones. Bon, c'est lui avec Harrison Ford ou avec Bill Murray?
Harrison Ford.
Non, il n'y a personne.
Il aurait été plus comique, je pense, non?
C'est vrai.
Ça aurait été plus des blagues. Ouais.
Mais bien que physique. Soit, Harrison Ford a quand même un rôle comique.
Oui, tout à fait.
Oui, mais il est moins physique. Il est moins physique.
Il a le bon sens de l'humour, Harrison Ford.
Ouais,
tu vois, un peu pince sans rire. Tu vois,
mais tu vois que c'est pas si fou qu'ils aient pensé à Bill Murray dans le sens où c'est quand même assez comique ce rôle de Indiana Jones.
Ouais, mais Indiana Jones, c'est la dimension beau gosse que Bill Murray n'a pas.
Ça, exactement. C'est vrai, absolument.
On reste avec Harrison Ford. On reste avec Harrison Ford car Bill Murray était envisagé pour jouer le rôle de Han Solo dans Star Wars.
Non plus.
Non.
Personne n'imagine Han Solo.
C'est des rôles tellement iconiques que c'est difficile de voir autre chose qu'Harrison Ford en fait.
Mais surtout, moi je trouve que ça colle pas avec Han Solo. Bill Murray.
C'est chelou. Parce qu'à l'époque, il
a bien fait de pas répondre.
Je le vois bien en Yoda, moi.
non, mais parce que, comme tu disais, pour Eddie Valiant, moi je le vois bien, par exemple.
Ouais. C'est vrai, exactement.
Ouais.
Dans une autre virtualité, c'est Bill Murray qui aurait pu interpréter le rôle de Charlie Babbitt dans Rain Man, donc celui joué par Tom Cruise. Franchement, ça marche.
C'est peut-être pas mieux s'il n'y a pas le décalage. Parce que Tom Cruise, il est vraiment relou dans le film au début. Il fait vraiment le gars.
Mais après, je trouve que c'est pas mal que ce soit
un beau gosse.
Ouais, voilà, que ce soit un beau
aussi,
gosse. Ça apporte un truc au film quand même.
C'est dur comme exercice.
Hmm,
c'est dur ton exercice.
Bah, c'est pas évident parce que.
De se projeter sur des films en plus qui ont été des vrais succès.
Voilà, c'est ça le truc. Sûrement un film de merde.
Est-ce que Rain Man aurait été un succès avec un profil différent de Tom Cruise aussi?
Oui.
Sûrement.
Parce qu'il faut savoir que Tom Cruise, à l'époque, quand il joue dans Rain Man, petite anecdote comme ça. La marque Ray-Ban était en crise totale.
C'est le film gros. Tu
la marque Ray-Ban était presque en faillite.
Ouais.
Et Tom Cruise utilise une paire de Ray-Ban dans le film. Et après le film, tout le monde voulait la paire de Tom Cruise.
Du coup, ça marche pour Top Gun, ça aussi. Ça un
bon, on en avait parlé dans un des podcasts de ça. Des films qui avaient relancé des marques. Vous vous souvenez, c'est moi qui avais fait la chronique. Après, c'est pas.
Mais figure-toi, je le disais dans le tab de Tom Cruise.
Aussi que j'ai regardé ce week-end, qui était très bien joué.
Ah bah merci, c'est gentil.
Non, vraiment.
Et du coup, ça a relancé Ray-Ban. Tu vois, la puissance du gars, il relance Ray-Ban carrément. Et s'il a relancé Ray-Ban, c'est aussi parce qu'il est méga beau gosse dans le film. Donc je pense que c'est aussi ça qui a fonctionné.
Vous trouvez beau gosse Tom Cruise?
Sur Twitter. Après, n'oublions pas qu'il fait 1m63.
Ouais. Ah, comme
Michael J. Fox. T'es petit ou phobe apparemment, toi?
moi, je suis en concurrence avec tout le monde. je suis célibataire, je suis en concurrence avec tout le monde. Donc je donne les infos.
Alors, celui-là est pas mal. Et on se rend compte que Bill Murray était considéré dans plein de rôles très cool quand même, parce que Warner pensait à lui pour le rôle de Bruce Wayne dans Batman. De Tim Burton.
Oula.
À la place de
Keaton.
À la place de Keaton. Mais il faut savoir que.
En vrai, attends, mais par contre, les gars, pareil, hein.
Ça me choque moins.
Il faut savoir que Keaton, quand il est choisi pour faire Batman, ça fait un tollé total aux États-Unis.
Oui, surtout,
tout le monde fait les pétitions pour pas qu'il soit dans le. Tu vois,
c'est un blagueur.
C'est un blagueur.
Ah, ça te choque pas, toi?
Non.
Bill Murray en Batman. Ouais, pourquoi pas?
Parce que dans l'univers de Tim Burton, on est dans un truc un peu farfelu.
Bill Murray, je vois plus en pingouin.
Oui, mais parce que donc, les rôles de méchants où le mec est moche, c'est dommage.
Non, mais Bill Murray, il a ce côté un peu mou et bonne patte, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
C'est pas Bruce Wayne.
Là, il y a débat. Bill Murray, franchement, il y a vraiment débat là-dessus. Bill Murray a raté le rôle du détective John Kimball dans Un flic à la maternelle. Et je le vois grave dans le film.
Tout à fait. Clairement.
Bill Murray dans Un flic à la maternelle, ça aurait pu être pas mal. Alors, Schwarzy ou Bill Murray? Parce que Schwarzy, c'est quand même iconique dans le film.
Le truc, ce qui est bien avec Schwarzy dans Un flic à la maternelle, c'est que quand à un moment donné, ça se corse à la fin, parce que le film est plutôt marrant, ça joue sur le côté... voilà, le flic qui vient à la maternelle, qui est avec les petits, mais à un moment donné, quand le père du petit, donc il revient, il est armé comme jusqu'aux dents, là, Bill Murray, le côté, tu vois, alors là, Schwarzenegger, voilà, exactement, il faut même avoir Terminator.
Il faut savoir qu'au début du film, parce qu'on a le souvenir d'un flic à la maternelle comme un film un peu bisounours avec des enfants, roses, etc. Mais au début du film, ça commence avec un Schwarzy barbu, avec un long trench, un gros fusil à pompe, qui va dans un squad de drogués, etc. Le début du film, c'est comme ça, Un flic à la maternelle.
Mais ce qui était bien, c'était vraiment le contre-pied aussi, c'est toujours pareil.
C'est vrai. Film de Martin Scorsese maintenant, Les nerfs à vif avec Robert De Niro. Il aurait pu jouer le rôle de Niro.
Sérieux,
Les nerfs à vif.
Max Cady.
Mais là, pourquoi pas, tu vois.
Ça aurait été sale.
Non, mais c'est bizarre, ouais. Pourquoi pas.
Comme il a ce côté un peu déluré, Bill Murray, le fait qu'il joue un peu un ouf.
Ouais, je suis d'accord.
Et moi, c'est un des seuls films où De Niro m'a vraiment fait flipper, par contre. Donc là, c'est Bill Murray qui fait flipper.
Ah, en Al Capone, il est pas mal aussi, quand même.
Ouais.
Le coup de la batte, là, dans Les Incorruptibles. C'est un peu un délire. Bill Murray a raté un rôle dans Philadelphia, figurez-vous, puisqu'il aurait pu interpréter l'avocat qui défend le personnage incarné par Tom Hanks, avocat qui s'est finalement avéré être Denzel Washington.
Ouais, ça aurait été bien.
Moi, je préfère Denzel quand même.
Ouais, Denzel.
Oui, ça va être un autre truc, mais.
Ah, j'ai du mal à imaginer Bill Murray.
C'est un bon film.
C'est toujours pareil, quoi. C'est des rôles tellement maîtrisés dans un film à succès. J'ai du mal à imaginer autre chose que Denzel. Puis le fait que ça soit un Renault à l'époque aussi, pour affronter la grande firme d'avocats blanches, je trouve ça cool.
Un film qu'adore Erwan. Il a également raté le rôle de Noah Levenstein dans American Pie, Eugène Levy, le père. Le père, il est exceptionnel.
Après,
le père, il est culte quand même. Le père, il est culte. Le rôle de dépressif dans Little Miss Sunshine, interprété par Steve Carell. Ça aurait pu être Bill Murray.
Ouais, ça aurait pu, Steve Carell, Bill Murray, c'est très dur. Hein. Ouais.
C'est dur, là.
Qui on préfère, moi, je sais pas.
Parce que Steve Carell est bon dans Little Miss Sunshine.
Il est très bon. On adore tous Steve Carell.
Non, arrête.
Le golf.
Et enfin, il a raté Toy Story aussi, figurez-vous, puisqu'il aurait pu être la voix de Buzz l'éclair. Et dans la version française, c'est Richard Darbois. Mais dans la version américaine, c'est Tim Allen. Tim Allen qui a joué dans Super Noël. Qui a joué dans cette série que j'ai oublié, où il jouait un bricoleur Home Improvement en anglais.
Ouais, c'est en français. Papa Bricole.
Papa Bricole, voilà.
Il joue dans le Cluedo aussi.
Tim Allen. Voilà tous les rôles qu'aurait pu avoir Bill Murray. Ouais. Mais il a quand même une grande carrière. Quand je pense à Bill Murray, je me dis que c'est typiquement le genre d'acteur qui nous pousse à aller voir un film, peu importe le sujet ou le réalisateur. Est-ce que vous, il y a des acteurs ou des actrices comme ça qui vous poussent à aller voir des films, Thomas? Un acteur ou une actrice comme ça où tu dis, ok, je l'aime tellement que peu importe le film, j'irai.
Bah, ça m'a fait ça pendant très longtemps et ça s'est un peu estompé, mais pendant tout.
Clavier, toi, non?
J'adore Christian Clavier. Non, je pense à Will Smith en fait. C'est-à-dire que sur toutes les fins des années 90, début 2000. C'est vraiment le type de mec, tu ne peux pas rater la dernière sortie au cinéma. Alors évidemment, ça s'est un peu estompé ces dernières années avec des choix de scénario plutôt cata pour notre ami Will, mais Will Smith, c'est le premier mec qui me vient à la tête en tout cas.
Erwan.
J'avais une blague, mais en fait, j'ai pas trouvé de nom d'acteur un peu cool. Donc non, moi, Leonardo DiCaprio, clairement.
Oui, bien sûr. Ouais.
Clairement.
Surtout qu'il choisit très bien ses films.
Ouais, et tout ce qui est la clique, Al Pacino, Robert De Niro, quoi. Alors Robert De Niro, c'est bien, quand il a joué Mon beau-père, tout ça et moi, c'est rigolo, mais c'est pas là où je l'attendais. Mais les Al Pacino, Robert De Niro, oui, moi j'ai...
Toi, tu l'appelles Al Pacino apparemment.
Ouais, j'aime bien, ça me donne un peu de relief, ouais. Tu vois.
Et Bobby De Niro.
Aurélien.
Donc Al Pacino, puisqu'apparemment on peut pas se marier ici, mais moi j'ai un vrai amour profond pour les films de gangsters.
Mais c'est vrai, parce que j'ai demandé à Al Pacino hier, parce que je le connais pas, il m'a dit ouais, je l'appelle Erwan Abbott. Oui, c'est comme ça que tu t'appelles.
Tant qu'il m'appelle pas. Tant qu'il m'appelle pas à Vautré, ça me va.
Aurélien, toi.
Moi, je me rends compte que je suis pas très ciblé acteur plus réalisateur ou équipe. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un acteur où je regarde tous les films? Si, Kurt Russell.
Ah ouais,
ouais, c'est vrai que tu l'adores, Kurt Russell.
Kurt Russell, à chaque fois qu'il est dans un film, même si c'est pourri, là, j'ai encore regardé Chronique de Noël 2, là.
Ah oui, c'est bien, hein.
Bah oui, c'est comme le 1, quoi.
C'est ça n'a aucun sens,
mais Kurt Russell qui joue le Père Noël, je sais pas, je suis content, ouais. Tu vois. Donc,
Guillaume,
ce serait pas Kurt Russell.
Je suis très étonné que personne l'ait cité, mais je vais le citer à votre place, Tom Hanks.
Bien sûr.
Bah oui.
Mais si, moi,
Tom Hanks, évidemment. Non, mais Tom Hanks, dès qu'il en a joué, ce film a l'air bien.
Même le film sur.
On a notre ingénieur du son qui trépignait d'impatience et attendait Tom Hanks.
Mais en ce moment, je suis en train de me faire tous les films que j'ai pas vus de Michael J. Fox, figurez-vous. Et parce que je l'adore. Dès qu'il est dans un film, je suis content. Hier, j'ai regardé Teen Wolf, qui est pas son meilleur, mais bon.
Ah ouais?
Tu l'as vu, Teen Wolf?
Ouais, j'ai vu, ouais.
Bon.
Bah, les effets spéciaux, ils ont un peu vieilli.
Surtout, en fait, c'est fou quand tu regardes des films de 1985. C'est le montage.
Ouais.
Ça changeait tout. C'est jamais dynamique.
Non.
Jamais du tout. Les scènes, elles durent une plombe et tout. Mais c'est agréable.
Personne ne cite Cadmerad, par contre.
Oui. Non, et Gilles Lelouch.
Il y a un acteur français que tu cites tout le temps et j'arrive pas à me.
Attends, je ne sais pas. J'en ai
pas. Si, un acteur que tu trouves très moyen. Benoît Magimel.
Ah non, non, oh non, 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 non. Samuel Le Bihan.
Samuel, c'est bon, Samuel.
C'est bon, Samuel.
Moi, par contre, il y a Ahmed Silla qui a commencé sur scène mais qui est très bon au cinéma. J'adore aller voir ses films.
Ah là là.
Et comme personnel visuel, on croit que c'est vrai.
On sait pas si c'est une blague ou pas. En fait, quand tu dis Al Pacino et Robert De Niro juste avant, en général.
Et toi, JB?
Mais moi, ça marche un peu par lubie, c'est marrant parce que effectivement il y a des acteurs comme ça qui me donnent envie d'aller au cinéma. Bon, c'était Tom Hanks et tout, mais souvent je vais voir un film et l'acteur je vais le trouver extraordinaire dans le film et après ça va me donner envie de voir tous ses films. Récemment je l'ai fait avec Jean-Pierre Marielle, j'ai revu un film avec Jean-Pierre Marielle et j'ai eu envie de voir tous les films. Alors là il y en a énormément donc c'est compliqué. Pareil avec Jean-Yann, j'avais revu un film avec Jean-Yann, j'ai voulu tous les revoir.
Et Jean Gabin aussi.
Et ouais, Jean Gabin, et je l'ai fait récemment avec Gene Hackman, que j'adore, qui est un de mes acteurs préférés.
Famille.
Et du magnifique. Coup, j'ai vu le dernier la semaine dernière, j'ai pu voir tous les films de Gene Hackman. Donc c'est vraiment. J'ai tout vu. Donc quand j'ai
c'est un film comme ça. C'est Mississippi Burning.
Ouais.
Exactement.
Quel film de Gene Hackman, je me
extraordinaire.
Régale. Avec qui il est en duo?
Willem Dafoe.
Ouais. Oh, c'est ça. Bravo.
Willem Dafoe, dont on parlait durant le bilan. 2000.
Ouais, pour son film.
Pour son film Van Gogh.
Van Gogh, ouais.
Ah. Exactement.
Et non, mais j'allais dire Robert Pattinson parce qu'il fait des très bons choix.
Exactement.
Mais j'ai pas vu les Twilight, donc je peux pas en parler.
On attend le prochain Batman surtout.
Oui, voilà.
Non, mais d'ailleurs, Willem Dafoe, Robert Pattinson.
Exactement.
Dans le truc.
Dans son phare.
Dans The Lighthouse.
Dans le phare, bien sûr.
Très bon film.
Ah oui.
Alors. Aurélien, Michael Jordan est l'immense star de Space Jam, mais pas plus qu'un autre acteur dans le film, à savoir Bugs Bunny. Toute la planète connaît ce lapin, mais peu connaissent son histoire, d'où il vient et comment il a été créé.
Eh bien, je vais vous expliquer tout ça, mais tout d'abord, une petite question pour ce tour de table. C'est qui votre Looney Tunes préféré ?
Pas mal comme question.
Le coyote, il revient souvent, le coyote.
C'est vrai
quand même.
C'est le plus marrant.
C'est même pas Bip Bip, c'est le coyote.
Non, mais attends, c'est le plus marrant et c'est le plus intelligent. Quel génie. En fait, il a tout du français en plus. Nous, français, parce qu'il perd tout le temps, il gagne jamais. Mais,
il continue,
mais c'est un génie, surtout. Autant d'ingéniosité, c'est incroyable dans un seul personnage.
Et surtout, c'est les seuls Toons sans dialogue. Il n'y a aucun dialogue dans les.
Il y a quand même Mip.
Ouais, il y a Mip Mip, mais c'est tout.
Le dieu de Tasmanie aussi, non ?
Ouais, mais Taz, il est toujours avec Elmer ou avec un autre gars ou je sais pas
quoi. Ouais, c'est lui
le
qui parle.
Le dieu Bibi le coyote, c'est le seul Looney Tunes sans dialogue.
Daffy Duck, aussi, dans un autre registre, j'aime bien.
Ouais.
Elmer le chasseur.
Ok, vous allez tous me les citer, quoi.
Ouais, c'est clair.
Ok, très bien.
Et personne n'a dit Bugs Bunny, du coup.
Bah non. C'est ce que j'étais en train de me dire.
C'est comme pour Mickey, c'est pas ton préféré, quoi.
T'as dit quoi, toi ?
Non, le coyote, pareil.
Le coyote, c'est vrai que vous avez cité le coyote tout de suite. Putain, j'étais pas prêt. Pour le coup, ma chronique n'existe plus. Merci, au revoir. À votre avis, quel âge a Bugs Bunny ? C'est un âge rond aujourd'hui même.
100 ans.
Pas aujourd'hui.
90.
90,
je dirais plus. Ouais, non, 90, parce que 100, on en aura entendu parler, 100.
80.
C'est les 80 ans, en effet, de Bugs Bunny, une année de création, enfin le premier vrai cartoon qui sort de lui, c'est en 1940, le 27 juillet 1940, c'est là où il y a le vrai nom de Bugs Bunny qui apparaît, mais en fait, c'est un personnage qui apparaît vachement plus tôt, et il a une histoire un peu marrante, parce qu'en fait, il a failli ne pas exister du tout. Et pour vous raconter cette histoire, faut d'abord que je vous parle de Tex Avery, qui arrive dans les studios en 1935 de Léon Schlesinger, je suis désolé pour cet horrible accent, qui va devenir plus tard le Warner Bros. Cartoons, à l'époque dans un petit studio qui va être un peu en dehors, et ils vont l'appeler le Termite Terrace, parce que en fait c'est un studio vraiment pourri, on les a mis dans le fin fond de chez Warner, c'est tout naze, dans un bungalow en bois qui est pourri d'insectes, et il y a des termites partout en fait. Donc le studio qui a sorti absolument tous les cartoons qu'on connaît, tous les Daffy Duck, les Elmer Food, etc., c'est dans ce truc, et c'est pour ça qu'on les a toujours appelés l'équipe de Termite Terrace. Et donc Tex Avery vient de là, Chuck Jones vient de là, et tout ce qu'ils vont créer va être entre 1935 et 1940. Et en 1937, ils ont créé déjà Porky, le petit cochon que vous n'avez pas non plus cité, ce cher Porky, et ils vont se lancer dans une petite blague autour de la chasse de Porky, et c'est là que Tex Avery, avec Chuck Jones et surtout Bob Clampett, un animateur qui est dans l'équipe, ils vont créer Daffy Duck, en fait. Mais donc, un canard qui va essayer d'échapper à Porky, qui essaye de chasser à ce moment-là. Un an après, donc là on est en 1937, un an après, en 1938, à l'époque, ils doivent faire rapidement des cartoons assez régulièrement pour mettre avant les films de la Warner. Donc en gros, ça passe au cinéma. Et ils ont quand même des commandes assez régulières de cartoons très rapides. Ils doivent faire un nouveau cartoon et ils n'ont rien. Les mecs sont dans la merde. Ils doivent sortir un truc, j'ai pas envie de dire dans la semaine, mais presque. Et ils ne savent pas comment faire, tu vois. Et Bob Clampett, il dit, bah les gars, j'avais plein de blagues sur les chasseurs. Donc si vous voulez, on ressort le même cartoon, sauf qu'on change 2-3 trucs et puis on arrive à replacer des blagues à l'intérieur, mais on reprend un peu ce qu'on avait dessiné et on refait. Il fait, ouais, mais si on fait le canard, ça va être relou et tout. Il y en a un dans l'équipe qui dit, bah, tu sais quoi, on n'a qu'à dire que ton canard, il se déguise en lapin. Et là, il crée un lapin avec les mêmes mimiques que Daffy Duck, la même voix. À l'époque, c'est Mel Blanc aussi qui fait la voix, donc ils disent, fais les mêmes mimiques parce que Daffy Duck, ça marche et tout. Et donc, un an après, il crée une sorte de... ce qu'ils vont appeler le Happy Rabbit, qui est genre un lapin, qui est pareil, qui va se faire chasser par Porky à l'époque. C'est quasiment le même dessin animé. En fait, c'est du Pompée de Daffy Duck, et ça devient le premier esquisse de Bugs Bunny, en noir et blanc, et pas du tout tel qu'on le connaît maintenant.
Mais
en plus,
pas,
il parle quasiment
pas. Il était
pas
gris, genre. Il était noir, non ?
Non, il était carrément en blanc.
Enfin, il était blanc, ouais.
Ouais, c'était un lapin blanc, au trait noir. À l'époque, il n'y avait pas encore de couleur à cette époque. Ça arrivait juste après. Et c'est là que l'histoire est assez marrante, parce que donc il est dessiné par Bob Clampett et un autre mec qui s'appelle Ben Hardaway. qui redessine le lapin, et pendant quelques temps, ils disent, bah, on peut avoir le canard et le lapin, on va faire plein d'histoires avec les chasseurs et tout ça, et ils doivent en fournir quand même plein. Donc, ils continuent à redessiner le lapin, et ils disent, ouais, le lapin, il peut être marrant. Et au début, le lapin, à votre avis, s'appelait comment? C'est un nom archipété.
Bugs, ou Bunny.
Non,
ou
ouais, il non. a failli s'appeler Happy Rabbit.
Ah, bah voilà. Très bien.
Au début, il l'avait appelé Happy Rabbit. Et donc, il continuait à dessiner ce truc et ça se passait. Sauf que le dessinateur qui faisait les esquisses et qui continuait à le faire, il s'appelait donc Ben Hardaway. Et dans son petit milieu, on l'appelait Bugsy.
Ah.
Donc, entre eux, tout le monde l'appelait Bugsy et tout. Il dessinait le lapin, etc. Et en fait, ils lui ont jamais donné de nom. Mais à un moment, ils ont fait une esquisse. Ils l'ont mis dans un répertoire, tu vois. Et un an après, en 1940, quand Tex Avery dit... J'ai envie qu'on lance un nouveau personnage après Daffy Duck, il faudrait que ça soit un lapin, ça serait cool. Ils ressortent les esquisses, et en fait, le stagiaire, pour lui donner un nom, il avait dit « Bah en fait, c'est le lapin de Bugsy. Bugs. C'est Bugs qui l'a créé, en fait. Donc c'est Bugs Bunny. » Et c'est en fait, quand le truc il est ressorti, ils ont fait « Ah merde, il a déjà un nom, en fait. » Bah, il s'appelle Bugs Bunny, en fait.
C'est fou.
Et donc, c'est que tu rends hommage à ce stagiaire, parce que finalement, personne ne calcule ce stagiaire, et c'est grâce à lui qu'il s'appelle comme ça.
Et surtout, bah, en fait, le créateur qui dit, en fait, j'ai pas vraiment créé ce lapin. En plus, c'est vraiment Tex Avery qui va en refaire un nouveau lapin, qui va être le Bugs Bunny qu'on connaît, qui va être donc gris, qui va avoir toutes ses mimiques, qui vont être repris du cinéma des années 30, et qui va parler surtout. Donc, c'est quasiment plus le même lapin, mais par contre, le nom reste le même. C'était un peu le lapin du studio Termite Terrestre, donc, qui s'appelle Bugs Bunny, en hommage à juste un dessinateur qui s'appelait Bugs, qui est parti d'ailleurs un an après, pour après créer Woody Woodpecker. Chez les concurrents, ouais, tu vois. Fort, donc, voilà.
Bravo.
Donc en fait, Bugs Bunny est vraiment créé en 1940 dans un dessin animé qui est encore un dessin animé de chasse, mais qui maintenant est avec Elmer Fudd. Donc d'ailleurs, j'avais jamais reparé, mais Elmer Fudd Beat, en fait.
Bien sûr, ouais.
Je pense qu'il s'en inspire, ouais.
C'est exactement ça, en fait. Je savais pas, mais ça vient de là.
Pour les plus jeunes, c'est un groupe français, Elmer Fudd Beat.
Ouais,
parce que sinon, c'est un peu abstrait.
Un groupe français des années 90.
Avec des chansons très engagées.
Ouais.
Voilà, très engagées.
Perso, bref, j'avais jamais entendu parler de ce groupe, hein, perso.
C'est vrai.
Bah ouais, Daniela, le plastique, c'est fantastique.
Daniela, tu connais
pas. Je confirme, j'ai jamais entendu parler de ça.
Ouais, non, c'était horrible, ça a pas duré longtemps, mais c'est. Je savais pas que c'était.
Tu connais pas.
C'est pas du tout.
Bref, donc c'est un dessin animé avec Elmer Fudd, c'est la première fois, et c'est là que Tex Avery dit bon, il faut qu'on lui donne des mimiques un peu différents. Et là, il s'inspire de comédie un peu burlesque. Donc, le mélange de Bugs Bunny, il veut que ça soit en gros une sorte de New Yorkais de Brooklyn. Donc, il va mélanger les mimiques de Groucho Marx, des Marx Brothers, des en gros comment marche notre ami Chaplin. Et en même temps, ils veulent lui donner un truc très moderne. Maintenant, ça paraît bizarre, mais à l'époque, on est dans les années 30, 40. En fait, c'est hyper moderne de faire ça et de le mettre dans un dessin animé.
Alors, Groucho Marx, c'était pour sa façon de tenir la carotte comme lui tenait le cigare.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et aussi comment il marchait. C'est-à-dire que quand il marchait en avant et tout, et aussi dans le vocabulaire. Parce que c'était un truc qui était très new-yorkais à l'époque où, quand même, les États-Unis, c'était un peu plus bigarré. Il y avait plein de façons de parler l'américain, on va dire. Et donc, il y avait un style très Brooklyn. Et en fait, Bugs Bunny vient de Brooklyn dans l'histoire. Ça, je savais pas non plus. Donc il a cet accent très new-yorkais, très, très brooklynien, je sais pas comment on dit, et il avait ce mélange-là, et en même temps, ils ont tout copié sur une scène d'un film, alors ça j'ai découvert, c'est un truc assez fou, un film de 1934 qui s'appelle New York Miami, en américain ça s'appelle It Happened One Night, où Clark Gable discute à un moment contre une... avec l'actrice, je ne me souviens plus, mais c'est vraiment Clark Gable qui est
copié.
Sophie
Favier.
Je ne pense pas. qui est copié. En fait, il est le long d'une barrière, il discute avec l'actrice et il mange une carotte. Et en fait, si on regarde cette scène, c'est incroyable, c'est exactement les mêmes mimiques. En fait, ils ont copié, enfin les animateurs, ils ont pris cette scène pour copier la façon qu'avait Bugs Bunny de manger des carottes en parlant. Parce qu'en fait, Clark Gable, tu le vois, il mâchonne, en même temps, il parle dans sa barbe et tout ça. Et en fait, ça a été tout le délire de l'animation de Bugs Bunny, qui était copié, en fait, sur le cinéma à l'époque. Parce que le but, c'était d'être le plus proche possible de ce qui se faisait dans les films, quoi. Le but, c'était un peu de faire du cartoon, c'est-à-dire de la parodie de ce qu'on pouvait voir dans les films. Et donc, ils ont mélangé tout ça. Et il y a surtout un gros travail de Mel Blanc, qui est donc le mec qui fait absolument toutes les voix des Looney Tunes qu'on connaît, qui est mort en 1983. D'ailleurs, les dernières voix qu'on entendra avant qu'il meure, on en a parlé, c'est dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, où ils avaient enregistré quelques voix avant qu'il disparaisse. Donc, c'est vraiment sa voix qu'on entend la seule fois où Mickey Mouse et Bugs Bunny se rencontrent dans Qui veut la peau de Roger Rabbit.
Et alors, Mel Blanc, c'est une légende
de la voix
off. Pour les dessins animés. Et Mel Blanc, il lui est arrivé quelque chose d'assez extraordinaire durant sa vie. Malheureusement, un jour, il a un accident de voiture sur Sunset Boulevard. Ah, t'allais en parler ?
Bien sûr.
Ok, vas-y.
Ah bah, si tu l'as, vas-y, garde-la.
Non, et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il est tombé dans le coma. Il était comme ça sur le point de mourir. D'ailleurs, il y avait des fausses rumeurs. Enfin, il y avait des rumeurs qui sortaient un peu partout aux États-Unis. Les gens pensaient qu'il était mort. Tout le monde était très triste. Sa famille recevait des tonnes et des tonnes de lettres.
Ouais, mais je connaissais cette histoire.
Et en gros, personne n'arrivait à le réveiller. Et le médecin a commencé à lui parler en lapin. En imitant Bugs Bunny.
En fait, il lui a parlé en lui disant genre, j'arrive pas à l'appeler si je l'appelle Mel. Je vais essayer de l'appeler comme
Bugs
si je
et
parlais
du coup,
avec
il s'est mis à parler pour la première fois dans son coma avec la voix de Bugs Bunny.
Et du coup, c'est le plus mystique que j'ai entendu,
ouais,
je crois.
Il a des quoi de neuf, Doc.
Et du coup, il lui parlait, et à force de lui parler, il s'est réveillé, et plus tard, il a dit dans sa vie, c'est Bugs Bunny qui m'a sauvé.
Et d'ailleurs, ouais, tout ce truc de quoi de neuf, Doc. D'ailleurs, Tex Avery en parle en disant pourquoi la première phrase que dit Bugs Bunny de l'histoire en 1940 dans son premier dessin animé, c'est What's up, Doc, qui va devenir le grand truc, tu vois. Et lui, en fait, Tex Avery, en fait, il s'appelle pas vraiment Tex, comme le présentateur. Il s'appelle Fred Avery. En fait, il s'appelle Tex parce qu'il vient du Texas. Et en fait, il explique que tout le vocabulaire qu'il a donné à Bugs Bunny, c'était des petites invectives que se donnaient les mecs un peu à la cool dans le Texas, mélangées avec la façon de le dire de Brooklyn. Et dit, nous, dans le Texas, dans les années 40, on disait pas pal, buddy, tu vois, des trucs comme ça, on disait doc, en fait. Mmh. Et donc, il disait, moi, ce que je cherchais à faire, c'est genre... En gros, il y a un chasseur qui arrive, il me met un flingue devant moi et je veux sortir le truc le plus cool en mode je suis hyper détendu. Qu'est-ce que tu dirais au Texas ? What's up, Doc ? Genre, qu'est-ce qui se passe, mec ?
Mais tu vois, c'est marrant parce que tout ce background qui est créé sur Bugs Bunny, finalement, nous, on l'a pas vraiment en France quand il y a le doublage français. Quoi.
Code 9 Docteur !
Tout ce qui a été créé autour de ça. Non, mais c'était pas mal, ça fonctionnait quand même.
J'avais compris pourquoi il y avait le Docteur.
C'est très dur à retranscrire.
Mais tous les petits trucs comme ça, du Texas, de Brooklyn, etc., toutes ces petites nuances que les Américains ont, nous, on l'a pas.
Mais Code 9 Docteur, qui est ensuite devenu le nom d'une série américaine qu'on a traduite.
Code 9
Docteur, la série.
Tout à fait.
Voilà.
C'est vrai tout ça.
C'est une anecdote. Bah, la série Code 9 Docteur et qui en américain
avec
j'ai oublié le nom.
Là avec le jeune docteur.
Non, c'est une famille, l'histoire d'une famille sud-com. On va arrêter là.
Rien à voir. Mais
vous allez voir sur Twitter.
Rien à voir, mais il y a quelqu'un qui a mis un parfum autour de cette table, ça sent très bon. Qui a mis un parfum ?
Ah bon ?
Ah, moi, je me parfume.
Ah, bah bravo, ton parfum sent très bon. Voilà, petit aparté pour respirer autour du milieu de la chronique.
Est-ce que tu peux donner mon compte Twitter, s'il te plaît, en même temps ?
C'est respiration.
Vas-y, profites-en, vas-y.
Non, pas du tout.
Ah, il veut pas donner de. Non, tu veux pas gagner des petits followers, apparemment.
Non, on n'est pas là pour ça. On est là entre amis, avant tout.
Oui, c'est vrai.
Bah après, alors, ce qui est marrant par rapport à ce que je vous avais dit au départ, c'est que, en gros, tout Bugs Bunny n'aurait pu ne pas être créé s'il n'y avait pas eu Daffy Duck, en fait, le premier personnage. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que pendant toute l'histoire des Looney Tunes, il va y avoir une sorte de rivalité entre Daffy Duck et Bugs Bunny. Très souvent, ils sont ennemis dans les dessins animés, ou alors dans les séries, ils se retrouvent à être en rivalité alors qu'ils sont colocs, tu vois. Et il y aura toujours une sorte de jalousie de Daffy Duck par rapport à Bugs Bunny, qui est en fait réel, parce qu'en fait, le vrai personnage de base, c'est lui. Même les voix, les animations, le fait, c'est vraiment lui. Mais pourtant, il sera toujours deuxième, jusqu'à ne pas être le premier de tous les Looney Tunes à avoir une étoile sur le Hollywood Boulevard, parce que Bugs Bunny va être le deuxième, juste derrière Mickey Mouse, à avoir une étoile sur ce fameux Walk of Fame de Hollywood Boulevard.
Et d'ailleurs, ils ont une réplique ensemble dans Roger Rabbit.
Tout à fait.
Les deux grandes stars.
Ils parlent
avec Mickey, entre Mickey et Roger Rabbit.
Et dans le film, ça se voit, ce que tu dis dans Space Jam. On voit bien que Bugs Bunny est le numéro 1 et que Daffy Duck essaye tant bien que mal d'être son niveau, valoir, mais ça marche pas.
Ouais. C'est triste.
Ouais, un peu.
Il y a toujours un... Par exemple, c'est un peu le Luigi de Mario, quoi.
Bah ouais, ce qui est dommage, c'est qu'il a été créé avant. Ouais. Voilà, c'est comme si tu disais, parce que là, Mario, on sait que Luigi, il a été créé après, enfin, plus ou moins en même temps, mais c'est le sous-fifre, tu vois, c'est le deuxième, quoi.
Bah ouais.
C'est son frère, quoi, en gros. Ouais. Mais là, Daffy Duck, ça a vraiment été créé des années avant, et ils disent vraiment qu'ils ont créé Bugs Bunny en copiant Daffy Duck, en fait.
Ouais, c'est fou.
Donc ça veut dire qu'en gros, son personnage est devenu beaucoup plus important, alors qu'après, tu peux te dire que Daffy Duck, c'était finalement une sorte d'esquisse, etc. Bref, c'est les
Je crois
deux
que c'est
premiers.
Le côté lapin.
Peut-être, en fait, tu crois que ça a marché.
J'avais vu ça alors ça n'a rien à voir, c'est Walt Disney qui expliquait aussi pareil, il y a un document sur Arte exceptionnel sur la vie de Walt Disney, et je sais qu'à l'époque, les lapins
et les lapins avaient énormément la cote, beaucoup plus que le canard. Ça peut peut-être s'expliquer par ça.
Non, mais c'est quoi l'animal qui a la cote aujourd'hui?
Le petit chien.
Le pangolin. Je pense que c'est le pangolin.
Le mec arrive à lancer un dessin animé avec un pangolin et que ça marche, je le respecte.
J'avoue. Et bref, j'avais un petit jeu pour vous, vu que Mickey a été le premier à avoir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Bugs Bunny a été le second quelques années plus tard. En tout, il y a eu 13 personnages animés qui ont eu des étoiles.
Ça, c'est bon, ça.
Ah ouais.
Et il y a eu aussi... En fait, il y a 18 personnages fictifs qui ont des étoiles sur le Hollywood Walk of Fame. J'aimerais que vous essayiez de m'en citer le plus possible. C'est sûr qu'il y en a 13 qui sont animés et 5 qui sont, en gros, bon, des pluches ou des personnages
autres. Daffy Duck.
Alors, attends.
Donald Duck.
Oui, Donald Duck, je sais Donald qu'il Duck. Y est. Attends, je reprends ma liste parce qu'elle était compliquée. Sans Goku, non.
Ah, triste. Fantomette.
Non, attends, déjà, Donald Duck, c'est vrai, et c'est très tard. C'est le 9 août 2004 qu'il a droit à son étoile.
Alors, est-ce qu'il y a Roger Rabbit?
Je peux vous dire que c'est au 6840 Hollywood Boulevard.
Est-ce qu'il y a Roger Rabbit?
Il n'y a pas Roger Rabbit.
Est-ce qu'il n'y a pas Simba?
Il n'y a pas Simba.
Non, mais attends.
Est-ce
qu'il y a Dingo?
Il n'y a pas Dingo.
Ah,
il y a Winnie l'ourson.
Il y a Winnie l'ourson,
c'est vrai. Il est bon.
Il y a Winnie l'ourson.
Non, parce que j'ai déjà foulé l'Hollywood Boulevard. Je vais pas l'embêter.
J'étais là d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. On est fait tous.
Et c'est assez tard aussi. C'était le 11 avril 2006. Et il est au 6834 Hollywood Boulevard.
Mini.
Il y a Mini en effet. Mini, elle est dans les toutes dernières. Elle a son étoile depuis le 22 janvier 2018.
Ah ouais.
Au 68-34.
Mais du temps à percer.
Pas mal. Hein.
Ouais, et ils expliquent d'ailleurs tout un truc en disant que c'est aussi son rôle sur la mode, qui a son influence sur la mode depuis ses débuts.
Est-ce qu'il y a.
Il n'y a pas Picsou.
Il y a Batman.
Il n'y a pas Batman.
Est-ce qu'il y a Superman?
Il n'y a pas Superman.
Est-ce qu'il y a Spider-Man?
Non, il n'y a pas de Marvel. Dans cette liste, il n'y a pas de Marvel.
Ah non, il y a Casper. Il n'y a pas Casper le fantôme?
Il n'y a pas Casper, non.
Bon, écoute.
Bah attends. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Rien à voir, mais je sais qu'il y a Rintintin. C'est rien à voir, mais je vais en placer un quand même.
C'est vrai, il y a Rintintin dans les trois. Il y a Lassie, Rintintin.
Jack Nicholson, alors, dans ce cas-là, si.
Il y a trois chiens.
Il y a Jack Nicholson, effectivement.
Alors, je rappelle que Rintintin n'est pas fictif. Hein. C'est non, quand là, même un animal.
Là, par exemple, j'ai les 10 premiers. Vous en avez cité que. Bah, il y a Mickey, Bugs Bunny et Donald Duck qui arrivent quasiment en 10e.
Mais les autres sont évidents ou c'est.
Ah, bah oui, il y en a, c'est évident. Il y en a des studios que vous avez déjà cités. Il n'y a pas Bambi. Il n'y a pas la mère de Bambi non plus.
Ah, mais attends, il n'y a pas...
Il y a du Disney comme ça, un peu des, ouais, Blanche-Neige.
Voilà, il y a Blanche-Neige, voilà. Merci. Elle est en troisième. Elle arrive le 28 juin 1987.
Donc Cendrillon, évidemment.
Non. Ça a été dit Bambi ou pas?
Bambi, ça a été dit.
Attends, j'en ai un. DJ Abdel.
C'est pas personne, j'ai essayé, voyons. Ça n'a aucun sens.
C'est
DJ Abdel. Non, mais il y en a un que j'ai cité dans la chronique. Et qui a été créé par le même personnage que Bugs Bunny.
Porciné,
Non.
Woody Woodpecker.
Exact.
Ah oui, ouais,
Woody Woodpecker, c'est le quatrième qui a été créé, qui a eu son étoile en 1990, le 13 septembre 1990.
Est-ce qu'il y a Shrek?
Il y a Shrek, en effet.
Ouais, ouais, bravo.
Il est très fort, Guillaume. Bravo, Shrek, il arrive en 2010, le 20 mai 2010. Il est au 69.
S'il y a Pikachu, je m'en vais.
Il n'y a pas Pikachu.
Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a Nemo?
Non. Il n'y a pas de Pixar.
Ah.
Ouais, je pense qu'on va galérer.
Non, il y a aussi de la télé, vu que c'est pas uniquement... Il y a des personnages d'animation.
Charlie Brown.
Il y a Snoopy, super. En effet, qui... Ça fait pas longtemps, hein. Ça date du film qui est sorti en 2015, je crois.
Ah bon?
Donc le 2 novembre 2015, on a eu droit à Snoopy.
Je te le dis, mais j'y crois pas trop. Denver?
Non. Franchement, DJ Abdel avait plus de chance.
Il y a déjà Shrek, ça va. Putain. Mais si vous galérez, je peux vous sortir les dernières.
J'adore ce jeu.
Au moins les dates.
Non.
Les dates, en fait, des fois, c'est.
Mini en 2018.
Des
petits indices.
Non, mais il y a vraiment des gens.
Non, mais il en reste combien, là, du coup?
Il y en a encore une bonne dizaine. Mais je pense
pour le rythme de l'émission, ça va être combien.
Ah, mais déjà, il y a des gens en jaune que vous n'avez pas cités, c'est bizarre.
Les Simpsons.
Voilà. Ah, les Simpsons, ah, oui, très vite en 2000. Il y a aussi des, une petite
Monsieur
grenouille.
Monsieur Garrison dans South Park.
Kermit, Kermit.
Eh oui, Kermit la grenouille. Kermit. Là aussi. Et puis, il y a bizarrement les Razmoquettes.
Ah ouais.
Oh bah attends.
Que leur
ils ont eu leur période. Bob l'éponge, il y a eu Bob l'éponge.
Non, le 28 juin 2001, ils ont le droit à leur petite. Et il y a aussi la fée clochette. Voilà. C'était la dernière. Et vous savez qui donc a eu sa dernière étoile le 14 mars 2019?
C'est la dernière étoile
pour l'instant d'animé, de personnages animés. Il n'y en a pas eu depuis.
C'est un personnage récent ou pas?
Oui, en fait, ils existent depuis 1963. Mais je ne le savais pas. C'était leur 60e anniversaire.
Ah, intéressant. Une famille, donc.
Ah, les Animaniacs.
59. Non.
Les Pierres à Feu.
Non.
Les Dalton.
Non. Il y a eu plein de films, mais plutôt récents. Mais apparemment, ça existe depuis super longtemps.
Les Tortues Ninja.
Non.
Oh. Non. Ouais, je sais pas.
Attends. Les Avengers.
Le Sourire de l'Espace.
Bon, il y avait les Muppets déjà, mais c'est pas ça.
Les Schtroumpfs.
Non.
Ah, pas mal. Ouais,
c'était Alvin et les Chipmunks.
Ah,
voilà.
On dit, ouais, mais on l'aurait jamais trouvé.
Non, on risque de c'est clair.
Bravo.
Voilà, merci.
Et ben bravo pour cette chronique. Est venu le temps de vous livrer quelques infos croustillantes sur Space Jam. Vous aimez les infos croustillantes en général, vous?
On adore ça.
Ouais,
adore
vous en raffolez. Hein,
mais avant ou après le lait?
Oui, bon, pourquoi pas.
Pourquoi pas. Public de merde. Ouais.
Pourquoi pas.
Alors, tout d'abord, et j'adore cette info, figurez-vous que la page internet spécialement créée pour le film en 1996 existe toujours aujourd'hui, 24 ans plus tard, sous sa forme originale. Alors j'y suis allé, ça rame à fond, mais rien n'a été touché, l'interface est la même, on y trouve des photos, plein de choses, et ce site continue d'être hébergé malgré les années qui passent. C'est assez incroyable, je vous conseille vraiment de taper Space Jam sur spacejam.com, je crois, sur Google, et vous avez le site promo de l'époque. C'est un des premiers sites qui a été créé dans l'histoire d'Internet. Space Jam, voilà.
C'est ouf, hein.
96, incroyable.
Ouais. C'est fou. Dans le film, à un moment, Daffy Duck demande à Bill Murray « Comment tu t'es retrouvé ici ?» Ce à quoi il lui répond « Le producteur est un ami. » Et un des producteurs n'est autre que Ivan Reitman, qui a réalisé Ghostbusters, film dans lequel il a bien évidemment joué Bill Murray. Il s'agit là d'un clin d'œil. À la fin du film, Bill Murray porte une casquette Saint Paul Saints. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Eh bien, il s'agit là du nom d'une équipe de baseball en ligue mineure, équipe dans laquelle Bill Murray avait des parts à l'époque. Donc, c'est une sorte de placement de produit
ça,
avant l'heure.
Ça me plaît, ça.
Ça, c'est pour toi, ça.
Warner Bros. A tellement souhaité que Michael Jordan se sente bien durant le tournage, ça vous avez cette info, c'est sûr, la First Team, qu'ils ont créé un immense terrain de basketball rien que pour lui, pour qu'il puisse jouer entre les prises. C'était aussi une de ses demandes. C'est-à-dire qu'ils ont créé un immense terrain de basket.
Il jouait pas avec n'importe qui. Hein. Toutes les stars NBA de l'époque qui sont venues, et ça faisait des pick and game assez incroyables.
Dont notre ami Dennis Rodman.
Ça me fait penser à vous, les stories sur le terrain de basket, quand je vous vois jouer.
À la House Factory.
Exactement. Ça met des paniers de 3 points là-bas, Erwan. Hein.
Ça met des paniers de 3 points.
C'est sur l'émission, je relève pas.
Des paniers à 3 points. Voilà. Excusez-moi. Des paniers de 3 points.
Ça met des paniers de 3 points là-bas, Erwan.
Ça met la boule en cuir dans le cercle en métal.
C'est Erwan qui en off m'a dit précise bien dans l'émission donné que je mets des paniers à 3 points.
Merci. Voilà,
merci, je l'ai dit, merci, tu me disputes.
Le parfum, les 3 points, on est bon pour l'instant.
On est très bien. Le réalisateur de ce film, Joe Pitka, est un réalisateur assez méconnu dans l'univers du ciné. Sa filmographie ne compte que 2 films, Space Jam et Lady Dry, sortis 7 ans plus tôt avec Richard Dreyfuss à l'affiche. Ses faits d'armes ont plutôt eu lieu dans la pub et surtout dans le clip, puisqu'il a mis en image des chansons des Beatles et surtout de Michael Jackson, puisqu'il a réalisé les clips de The Way You Make Me Feel, Dirty Diana et surtout Heal the World. Donc ce gars était surtout connu pour les clips et il a juste fait 2 films, mais 2 films quand même, Space Jam au milieu, c'est quand même pas mal.
Et ça se voit d'ailleurs dans le film.
C'est de la réelle de clip.
C'est vraiment du clip, hein, à fond.
Je le disais en début d'émission, il y a donc dans ce film l'acteur Wayne Knight, qu'on connaît pour Jurassic Park et Seinfeld. Si vous ne le remettez pas, c'est celui qui crée le chaos dans le parc en coupant le courant pour voler des embryons de dinosaures. Eh bien, figurez-vous qu'il a failli ne jamais jouer dans ce film, car à sa place, et ça va plaire à Guillaume, le réalisateur souhaitait ardemment la présence de Michael J. Fox. À la place de Wayne Knight. D'ailleurs, cet acteur, Wayne Knight, on en parle peu, mais il a quand même joué dans Seinfeld, qui est une des plus grandes séries de tous les temps. Jurassic Park et Space Jam, donc, Basic Instinct, JFK d'Oliver Stone, Dirty Dancing ou encore Né un 4 juillet. Grosse film.
Bravo, monsieur.
Le mec, quand même, bravo. Et enfin, si Bill Murray porte le numéro 22 derrière son maillot, ce n'est pas par hasard. C'est tout simplement un hommage au film Un jour sans fin, puisque cette journée sans fin se déroule le 2 février. Et le 2 février, ça fait 2 et 2.
Bravo.
Voilà. Wow. Bravo à Bill. C'était la dernière info.
JB, oui. Est-ce que je peux te rajouter deux petites infos tabziennes que j'ai bossées?
Mais oui, alors, il faut savoir qu'en off, tout à l'heure, il avait un petit carnet, Erwan. Je lui dis, c'est quoi ce petit carnet? Il me fait, j'ai quand même bossé sur l'émission, j'ai noté des trucs. Bravo.
Et c'est des infos qui vont te plaire.
C'est des infos tabziennes ou pas?
Tout, alors, complètement.
Ah, on va les noter. Hein.
Est-ce que vous connaissiez l'agent à l'époque de Michael Jordan?
Tout à fait.
David Falk, qui est aussi le producteur du film.
Ah ouais.
Donc, ouais. Il y a un moment donné, donc tu l'as dit, il y a Larry Johnson parmi les méga stars NBA de l'époque, et quand ils perdent leur pouvoir, ils parlent entre eux dans le gymnase, et ils disent « même ma grand-mère pourrait me battre ». Et à l'époque, Larry Johnson faisait une pub pour Converse, où il était déguisé en grand-mère, d'où son surnom Grand-Mama. Et donc quand il dit « même ma grand-mère pourrait me battre », c'est un clin d'œil à la pub avec Converse, où il joue une rôle de grand-mère, les grand-mama.
C'était un film, un placement de produit.
JB, je savais que ça allait te plaire.
C'est très croustillant.
Donc David Falk était un agent qui pesait énormément dans les années 90 avec Michael Jordan, qui a négocié le contrat de Jordan donc sur le film et qui évidemment c'est biproducteur.
Ah, la façon dont tu l'as raconté, j'ai cru que ça allait s'arrêter à et son agent c'était David Falk. J'étais là genre bref. Vite fait la faute tabzienne. Pas ouf.
Alors il y a une dernière et Jordan a eu mal au ventre sur un jour de tournage.
alors t'en as une ou deux infos?
Deux.
Non.
Et c'est quoi la deuxième?
Mais David Falk est grand maman.
T'aurais pu ajouter qu'en fait il est
ressorti. Il y en a une là.
Mais ça a rien à voir. Alors attends, je reprends.
Il y a une info.
David Falk était l'agent de Michael Jordan et donc il est producteur du film aussi.
T'essaies de nous carotte là en fait.
Une info et l'autre info.
C'était bel et bien une info en fait.
Non mais Erwan, tu aurais peut-être pu ajouter qu'en 95, alors qu'il est à la retraite, peut-être ça aurait pu lui donner envie de reprendre le basket et qu'il y a toute cette affiliation dans le film.
Bon, reprenons la main sur cette émission.
Grand-maman, donc
c'est
une très bonne info. La grand-mère, c'est une très bonne info.
Mais David Falk, tu savais qu'il était agent et producteur?
Mais je sais même pas qui c'est David Falk.
C'est l'agent de Michael Jordan.
Excuse-moi, Erwan.
Tu es juste en train de le disputer.
Je pensais
que c'était une bonne info, un agent qui pesait à l'époque.
Je me fais gronder dans mon émission, qu'est-ce qui se passe?
Autant pour moi.
Mais bravo, c'est une info très croustillante.
Alors écoute, te fous pas de ma gueule.
Je dois te le dire.
Tu m'as déjà carotte au quiz, ça va.
C'était donc la dernière info, celle d'Erwan. Mais avant de se quitter, il y a bien évidemment le segment du dernier et de la dernière. Tout ce que nos invités ont accumulé culturellement ces dernières semaines. Et je vais commencer avec Erwan. Erwan, le dernier film que tu as vu au cinéma?
Space Jam. En 96. Non, alors tu sais que c'est une bonne question parce qu'en fait, ça fait un bail que je suis pas allé au cinéma et je me suis même rendu compte, à regret, que je suis pas allé au cinéma en 2020.
Ah ouais.
Donc le dernier film que j'ai vu, c'est j'hésitais entre le Joker ou Parasite, je sais plus lequel est sorti en premier.
Ah ouais, putain.
Mais les derniers films que j'ai vus, je crois que Joker c'était avec toi, je pense que c'est le Joker.
Très bien. Parasite. Thomas.
Moi c'était net, sûrement le seul film que j'ai vu au cinéma en 2020, alors c'est pas de ma faute parce que j'allais beaucoup au ciné à l'époque, c'était Net hein, évidemment de Christopher Nolan, et dans cet entre-deux où Tenet devait relancer le ciné mondial, ça a fait un léger flop, mais en tout cas j'avais pris beaucoup de plaisir et on était peut-être 3 ou 4 dans la salle à ce moment-là.
Alors c'est marrant parce que les derniers invités qu'on a eu en général c'était souvent Tenet, les réponses. Erwan, le dernier film que tu as vu via une plateforme?
Alors c'est sous les conseils souvent très précieux de mon acolyte Thomas qui me conseille énormément de films entre Netflix, Canal, Amazon Prime ou autre, et c'était là pour le coup sur Canal+, c'était À couteau tiré avec Daniel Craig, un petit Agatha Christie, un soir comme ça, il n'y a pas si longtemps que
on avait déjà parlé, je crois que c'est Aurélien qu'on avait placé dans ses films préférés de 2019.
Ouais, c'est mon genre de film.
Ouais, écoute, c'est en tout cas jusqu'à film préféré, je sais pas, en tout cas c'est parfaitement joué, l'intrigue est plutôt cool, et donc voilà, donc c'est sous les conseils de Thomas comme souvent où je suis allé, donc je me suis laissé porter sur Canal
Thomas.
À la demande et c'était très
bien. J'ai envie de dire c'est un film pour boire le thé.
C'est exactement ça, comme le... Non mais c'est ça, t'es content, t'es en famille, t'es content.
Thomas, le dernier film que t'as vu via une plateforme?
Malheureusement c'est Manque.
N'en dis pas trop parce que quand le podcast va sortir, ce sera encore un peu frais, du coup, voilà.
Pas encore vu j'avoue.
Donc, non, j'ai
pas vu.
Donc
t'as été déçu.
Vous voulez que je dise ça vraiment?
Non mais j'ai vu sur Twitter que...
J'ai rien mis sur Twitter.
Sans spoiler, moi perso j'ai adoré.
Il est incomplet.
Mais tu sais pourquoi ça m'a... Je voulais qu'on en parle ensemble, mais on va essayer de pas spoiler. C'est-à-dire qu'il y a certains films de grands réalisateurs qui passent à côté, ou en tout cas dans le... Ils se trompent de sujet dans un film, et ben on est en plein dedans, puisque David Fincher est un merveilleux réalisateur à énigmes, à scénario, alambiqué et tout ça. J'ai pas du tout retrouvé ça. Je connais les raisons, vous aurez le temps d'en reparler. Mais ça me fait penser à Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, où... Moi, j'aime bien les trucs contemplatifs qui montrent la réalité d'une époque et tout ça. Moi, quand je vais voir un film, j'ai envie, surtout avec des grands réalisateurs...
Ça pète, toi.
pas forcément que ça pète, mais en tout cas d'être surpris, d'avoir une petite originalité scénaristique. Là, c'est exactement ce que je n'ai pas eu, mais bon, je n'en dirai pas plus. J'étais un peu déçu, oui.
Tu nous l'as très mal vendu, je l'ai pas vu encore.
Bah, vous me direz, vous me direz.
La dernière série, en blanc, en plus. La dernière série que tu as regardée, Erwan.
Alors, c'est sur Netflix, c'est Le Jeu de la Dame.
Ouais. Ah, mais tout le monde regarde ça en ce moment.
Fantastique, tu l'as pas vu ?
Non.
Tout le monde regarde ça, et j'invite à ceux qui ne l'ont pas vu d'aller voir, parce que vraiment, le monde est... Moi, au début, j'étais pas spécialement chaud, le jeu des échecs, c'est pas un truc forcément qui... Vous avez compris, hein, au bout d'une heure et demie d'émission, que j'étais plutôt dans autre chose, mais en tout cas, ce personnage-là, cette femme-là, dans ce monde des échecs, cette espèce de croisement de genre, moi, je me suis régalé, c'est 8 épisodes d'une heure, à peu près.
8 épisodes d'une heure,
merci de me corriger. Non, vraiment, moi, je me suis régalé.
Thomas.
C'est aussi Le Jeu de la Dame. Mais donc, je vais parler d'une autre série. J'ai pu finir 10% la dernière saison, il y a quelques temps. Et très honnêtement, c'est la meilleure série française des 5 dernières années. Donc,
oh, c'est cool. Hein.
Donc voilà.
Il paraît que la saison 3 il est bien en dessous des deux premières.
Saison 4, ouais. Allez, autre 3, 4, ouais. 4. Oui, elle est en dessous. Mais tu prends beaucoup de plaisir.
Et alors, j'ai lu que Sigourney Weaver était dans la série. C'est pas mal. Ça joue bien.
Alors, c'est un très bon épisode. Ouais, et elle est très surprenante dedans. Et ouais. C'est une femme fantastique. Tu le ressens tout de suite.
Ouais. Erwan, la dernière chanson que tu as écoutée.
La dernière chanson que j'ai écoutée, ça, je l'avais notée celle-là. Non, parce que j'écoute beaucoup de choses, mais en ce moment j'écoute beaucoup. Bah alors, je suis de Marseille, moi.
Bande organisée.
J'écoute beaucoup. Wow. Non, peut-être pas bande organisée, mais l'album en tout cas très organisé. Il y a une chanson d'ailleurs que Maisie aime beaucoup aussi, c'est Combien. J'ai grandi dans le cas que j'ai rien lâché. La rue, le rap, me suis attaché. Mon shit, mon cœur, j'ai tout partagé. Ma maman dit sur les autres, faut pas râler. Voilà, en ce moment j'écoute beaucoup ça.
Thomas.
Ben en fait, en ce moment, je fais un peu de voiture et à un moment, j'ai perdu mon téléphone et je me suis retrouvé comme un con dans ma voiture à écouter la radio. Honnêtement, je ne peux plus écouter la radio, il y a trop de pubs. Et je me suis retrouvé, dans mes affaires, un coffret CD de Michael Jackson offert par mon père venu du Japon. Je sais pas ce que je fous avec ce truc-là, mais en attendant, ça me permet dans ma voiture, quand j'avais plus de téléphone, bon, je l'ai retrouvé depuis, à me mettre un peu de Michael Jackson avec une sélection un peu bizarre, clairement destinée à l'Asie, parce qu'il n'y a pas que les grands tubes, il y a aussi des trucs que je ne connaissais pas du tout.
Mais alors justement, est-ce que t'as une chanson que t'as redécouvert grâce à ce coffret?
Absolument pas. Du coup, parce que je reste.
Je te dis ça parce que j'ai besoin de mettre un extrait après au montage, donc ça envoie une chanson.
Ah, mais moi, ce que j'aime, c'est Human Nature jusqu'au bout, mais je l'ai pas redécouvert. C'est peut-être ma chanson préférée.
Donc, ah ouais.
C'est ma chanson préférée.
Je suis d'accord, c'est ma chanson préférée de Michael Jackson aussi.
Et ben voilà.
Écrite par Toto. Toi.
Incroyable, je ne savais pas.
Human Nature.
Légende Toto.
La dernière BD que tu as lue, Erwan.
Alors moi j'ai lu, j'aime bien Batman, moi je suis vraiment un bon fan de Batman et on m'a offert des BD chaque fois à Noël, ma mère, et là c'est la cour des hiboux, ça fait un petit bout de temps d'ailleurs je l'avais lu, donc j'ai rebossé un petit peu pour te répondre, mais la cour des hiboux, ouais, j'aime bien ces BD bien sombres de Batman parce qu'il y a un vrai côté dark que j'adore dans Batman.
Cool, Thomas.
Moi, je viens d'une famille très BD, mon grand-père et mon père, et on a beaucoup, beaucoup de BD à la maison. Et dernièrement, je me suis refait l'intégralité de 13.
Okay. Ah ouais, très cool.
J'adore 13, je sais pas, je les ai tous lus, mais bon, la BD, ça se consomme en 14 minutes, donc je me suis refait la totalité.
Erwan, le dernier livre que tu as lu?
Alors, je lis plus trop en ce moment, et c'est une brave catastrophe. Avant, je prenais le métro, je lisais énormément dans le métro, maintenant je suis en scooter. J'ai essayé de lire une fois en scooter, et c'est moyen. Et en fait, le dernier livre qui m'a marqué, je crois que c'est celui-là que j'ai lu, c'est Le Petit Prince. Non, pas du tout. C'est L'Ombre du Vent. Et là, pour le coup, je suis très sérieux, c'est un véritable chef-d'œuvre. C'est Louis Zaphon, je crois qu'il est mort il y a pas longtemps en plus. L'Ombre du Vent sur époque post-guerre civile avec donc la dictature de Franco. Un véritable chef-d'œuvre. L'ombre du vin, ouais.
Thomas.
C'est le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Oui. En fait, je me suis rendu compte que je suis passé pendant 30 ans de ma vie à côté peut-être de la meilleure dystopie que j'aurais vue que j'aurais lu dans un livre. Et quand j'ai dit à Erwan que je venais de l'acheter, il m'a dit ah bon, je l'ai lu il y a 10 ans. Je fais ah ouais, incroyable, il y a 10 ans, il y a quelques temps.
Plus
et, et donc, comme j'aime ce type de livre-là, eh bien, je me régale.
Erwan, le dernier objet culturel que tu as acheté?
Alors ça va parler à Guigui parce que depuis 3 ans maintenant, on m'avait offert un tourne-disque et donc j'ai commencé un petit peu la collection de vinyle, qui pour moi est un objet culturel.
Bien sûr.
Et donc avec Guillaume, qu'on a eu la chance d'aller plusieurs fois à Los Angeles, on allait souvent à...
Amoeba.
Amoeba. Ah, oui. Et quel bonheur Amoeba. Donc pour ceux qui savent pas, c'est un énorme magasin où il y a une partie vinyle
qui a d'ailleurs fermé et qui réouvre. Ouais.
Ah, tant mieux.
Ils ont changé les locaux.
Et donc il y a une partie vinyle incroyable. Et chaque fois, ben je me suis commencé une petite collection. Et je crois que le dernier album que j'ai acheté, c'est The Miseducation of Lorinil, qui est un album qui m'a bercé dans les fin des années 90 et qui là donc du coup je voulais l'avoir en vinyle. Je crois que c'est le dernier truc que j'ai acheté.
Thomas.
C'est aussi un vinyle, mais c'est un hasard complet. Mais c'est pour Noël, c'est pour ma mère. Je lui ai acheté le dernier Marvin Gaye, What's Going On. Donc, possiblement le meilleur album de tous les temps. Et elle aussi, elle s'est acheté il n'y a pas longtemps.
Mais qu'est-ce que tu t'es acheté pour toi, alors, du coup?
Ça fait très longtemps, le livre, Le Meilleur des Mondes. Mais c'est vrai que des albums.
Tu t'offres pas des petits plaisirs, toi, comme ça?
Si, mais c'est surtout des jeux vidéo.
Ah, bah voilà, ça compte.
J'ai pas encore acheté la PS5, mais si je reviens dans 3 semaines, je pourrais dire la PS5.
D'accord, très bien. Voilà. Parfait. Ce podcast est désormais terminé.
Il n'est pas l'artiste Insta, attends, qu'est-ce que.
Ah oui, c'est vrai, excuse-moi, on va la faire. il est à fond sur ses notes.
Non, mais attends, ses notes, elle régale, tu sais pas, toi.
Il a tout noté, il a souligné et tout, mais c'est vrai que j'ai oublié.
Quel profil as-tu scrollé récemment?
Non, mais c'est vrai, et je termine toujours avec cette question. Pour terminer, le dernier ou la dernière artiste que tu as scrollé sur Insta?
Alors, je sais pas si vous le connaissez. C'est complètement barré, c'est un mec qui s'appelle Geek Pop. Et notamment avec son personnage de Jean-Christ, qui me régale, parce qu'avant qu'il se lance et qu'il ait ce succès mérité sur Instagram, tous ces personnages-là terribles, il les faisait avec nous en voyage, et pour ça je me retrouve, donc voilà, et c'est une forme d'art, donc bravo Guigui pour ces vidéos qui me font énormément
merci
rire.
Merci beaucoup, c'est gentil.
Thomas, toi.
Ça m'embête de dire ça après Geek Pop, parce que c'est le meilleur du monde, mais en ce moment je vous une... Je sais pas, il y a la lumière qui est apparue sur Dua Lipa. Je n'arrive pas à me détacher d'elle. Et donc, ce week-end, j'ai pu scroller à fond sur.
Alors, c'est
sur
quoi Dua Lipa?
Oh, mais attends, mais attends, c'est qui lui?
Attendez,
on est où là?
Je sais même pas ce que c'est.
C'est une chanteuse.
Non, mais attends, une chanteuse,
une chanteuse anglaise, non?
Ouais, je connais pas.
Attends, c'est la superstar du moment, mais.
Je connais
c'est
pas.
C'est quoi Dua Lipa? Pour moi, c'est le Seki Ayam de Rob dans un autre sens. C'est pas.
Il est très fort, Migos, de Rob.
Exactement.
Oui, Dua Lipa, donc.
Non, mais écoute, excuse-moi.
C'est une chanteuse.
J'écoute pas, je connais pas.
Bah, moi non plus, avant, mais maintenant, je regarde.
Des tas de gars que je trouve extraordinaires pour moi, tu connais pas.
Oui, enfin, c'est Dua Lipa, gros, j'y peux rien.
Attends,
c'est pas de ma faute. Hein.
Après, là où tu te fais avoir, c'est qu'elle a un prénom un peu bizarre où tu peux dire, si ça. Tu connais pas, tu peux dire c'est quoi.
Dua Lipa, c'est ça. Ouais, vous m'êtes tombé dessus un peu facilement.
Ouais, ouais. Mais moi, je prends ta défense.
Ah, merci.
Malgré le fait que tu m'aies volé le quiz. Mais bon, après,
ouais, mais j'ai dit que tu sentais bon.
Sans rancune, c'est vrai.
J'ai dit que tu sentais bon.
Je rappelle que tu as gagné le quiz quand même, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Ce podcast est désormais terminé. Erwan et Thomas, c'était cool de vous avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre actu, Erwan? Qu'est-ce qui
Alors,
se passe en ce moment?
C'est une très bonne question. La NBA revient le 22 décembre et en soi, c'est une actu pour nous. Et puis, on va revenir très fort, tu sais, comme les mecs disent, aiment bien dire. Non, mais en janvier, par contre, on est sur un gros projet qu'on peut pas trop en dire plus. Mais en tout cas, il y aura pas mal de choses qui vont se passer sur la First Team avec pas mal de live, être un petit peu plus au cœur de l'actu sportive pour encore plus échanger avec les gens et proposer de nouvelles émissions, de nouveaux concepts. Donc voilà, c'est du boulot, mais on est parfaitement entouré avec notamment Paul Harrer qui nous a encore suivi aujourd'hui et qui est avec nous. Donc voilà, on n'est pas que deux derrière la First Team, on est toute une équipe qui grossit de plus en plus et donc voilà, on est qu'au début de notre aventure.
Et alors Thomas, en attendant que la NBA reprenne, qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne First Team et First
Beaucoup
Team
Sport? Beaucoup de choses, tu sais que quand il y a une saison qui reprend, on fait des previews, donc là on va parler de la saison qui va arriver, mais l'important c'est que pour ceux qui ne nous connaissent pas, si vous aimez le sport au global, eh bien on a plein d'émissions, plein d'experts avec un espèce de ton un peu plus jeune que ce qu'on voit à la télé, et le but c'est de s'amuser avec de l'expertise en plateau. Donc si toi qui nous écoutes maintenant tu aimes la NBA et que tu ne connais pas, n'hésite pas à venir nous voir. Mais bon, si tu aimes aussi le vélo, le foot, le rugby, la Formule 1 et les sports de combat, tu es au bon endroit si tu t'abonnes à la chaîne First Team.
Il y a souvent Pierre Ménès avec vous, non, c'est ça?
Non, jamais de la vie, justement. Non, justement. On a dit dans l'expertise, jeune et bonne ambiance. Trois choses qu'il n'est plus.
C'est pour ça que je rebondissais.
Ouais, merci, Guillaume. Ouais,
on aime bien avoir des jeunes. Donc d'ailleurs, la semaine prochaine, il y a Michel Drucker qui est avec nous.
Très cool. Erwan, merci pour cette info.
JB, merci à toi de nous avoir invités, parce qu'on se connaît tous depuis très longtemps, depuis Dailymotion. La vie a fait qu'on se voit pas toujours tous régulièrement.
Surtout en 2020.
C'est un plaisir vraiment de vous retrouver autour d'un micro, les amis. Je vous aime.
Merci Erwan, nous aussi. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. On va traîner sous l'outil Cinematcher que vous pouvez retrouver sur le site de Wheel of Cinema. Et parmi la masse des choix possibles, on va trouver un film qui sera le prochain sujet. Merci à Ninon et Vincent qui nous ont aidés à enregistrer ce podcast. Et à bientôt tout le monde. Bye.
Ciao, ciao.
Salut.
Salut.
Au revoir.